Aujourd'hui, dans le business du foot, qu'est-ce qui fait qu'on entend autant de grands chiffres? Est-ce que c'est plutôt les droits télé, la billetterie,
Les maillots.
les maillots, ouais, tout ça? Le business du foot, en fait, comment le comprendre? Shalom!
Salam!
Salut!
Ah! Moi, j'ai été briefé!
J'apprends vite!
This is it, nous y sommes! Ouais. Bon, au moment où vous voyez cette vidéo, on a à J+1.
Exactement.
Ouais.
L'inauguration a eu lieu hier. Ça a été un grand succès.
Ah! Ami, la seule manière de souhaiter ça.
L'inauguration de?
Mais parce que ça est diffusé dimanche. Donc on fait comme si on était déjà dimanche.
Dans le live.
L'inauguration a eu lieu hier.
Okay,
un beau spectacle.
Ouais.
La canne de l'hospitalité.
Et lancé.
Et lancé, effectivement.
Et vraiment, on est très heureux d'avoir Tanguy avec nous. Parce que l'a accepté, alors que, enfin, quand vous allez comprendre le rôle qu'il a dans cette organisation, vous allez comprendre que c'est vraiment un miracle d'avoir un peu de son temps. Donc, Tanguy, tu es aujourd'hui responsable de toute la communication du COCAN.
Ouais.
Wow. C'est ça. Donc, avant de nous dire aussi en quoi consiste ce rôle, je pense que ce serait intéressant qu'on ait aussi ton background et aussi. Qu'on parle de ta casquette d'entrepreneur. Et c'est vraiment ça qui va vraiment intéresser nos... C'est-à-dire, c'est que tu as ces yeux-là, tu es entrepreneur, et là, tu mets un peu tous ces skills, à la fois corporate et entrepreneur, au service de ce grand événement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, COCAN, comité d'organisation...
De la Coupe d'Afrique des Nations, monsieur. Coupe d'Afrique des Nations.
Aujourd'hui, on va parler du football business.
Amen.
Donc, aujourd'hui, comment tu te présentes Oui, je l'ai fait, mais toi, comment tu te présentes?
Tu l'as très bien fait, d'ailleurs. Moi, je fais toujours profil bas, donc c'est toujours difficile de se présenter. C'est un exercice qui est toujours compliqué. Depuis les entretiens, hein, ça ne date pas de maintenant. Présentez-vous, monsieur. Bon, tu as la tête, tu repenses à ton CV et tout ça. Et bien, on nous a appris qu'il faut se détacher du CV. Donc, on va essayer de faire ça. Jean Tanguy, c'est à peu près 20 ans. 20 ans d'expérience professionnelle dans le marketing et la communication de manière générale. Donc, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans les telcos, chez le leader qui porte une couleur ici. Et puis, après, j'ai été consultant pour l'Union européenne. Communication, donc voilà, c'est vraiment un switch, institution internationale et tout. Et puis ma passion m'a rattrapé.
Le ballon rond, le foot,
mais toujours dans le marketing et tout. J'ai voulu poursuivre ma passion dans ce domaine-là. Et voilà, j'ai monté mon agence de marketing sportif. Dont le projet, sinon l'activité phare est le Salon africain du football.
D'accord, oui, j'ai entendu parler du Salon africain du football, d'accord.
Voilà, qui vit bien actuellement, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, comme je suis dans le milieu et que la compétence a été reconnue, j'ai été appelé pour servir mon pays.
Exactement.
Voilà. Au sein du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, où donc j'occupe le poste de chef de département communication. Voilà, donc une lourde tâche pour un petit bonhomme que je suis. Donc voilà, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, on essaie de tenir bon. On a fait ce qu'on a pu, avec beaucoup d'enthousiasme. On a fait des choses bien, peut-être d'autres... moins bien, les Ivoiriens et le monde entier pourra juger, mais on a fait ce qu'on a pu. Et puis, on a la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. On est fiers, 40 ans après, d'être acteurs privilégiés de ce moment historique de notre pays.
Et 40 ans, c'était ça la dernière fois, il y a la CAN ici.
Oui, 1984, j'avais 2 ans.
Je ne savais même pas, je découvre. Mais d'accord, très bien.
Voilà, donc c'était vraiment pour moi une très belle mission. J'appréhendais et puis je me suis dit, Il faut y aller.
Hein. T'as commencé quand à prendre en main le projet CAN, où tu es rentré dans l'équipe CAN?
J'ai intégré le COCAN en 2022.
D'accord.
Janvier 2022.
Donc deux ans.
Deux ans, pile poil.
Super, super, super. Pour l'occasion, on a mis.
Ouais. On a représenté le pays.
Attends, les gars, vous auriez dû me dire, je viens là en costume.
Toi, tu viens du bureau.
Tu travailles, toi, tu travailles.
Attends, c'est ça. Pas vous travailler.
Non, mais nous, on a le temps de. C'est ça, nous, on a le temps de se
briefer pour que je sois dans le dress code, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, j'ai un maillot dans la voiture là, je vais pas le changer, tu vois.
C'est pas grave. Mais ça fait bien, là, ça fait très sérieux.
C'est pas grave, ok.
Moulay. Ça ressemble à ça, le maillot du Mali, je n'ai pas compris. Là.
Je ne sais pas de quoi tu parles, je suis ivoirien.
Il est ivoirien.
Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à accepter ça. J'ai un passeport, une nationalité, monsieur, je ne comprends pas de quoi vous parlez en fait.
Adopté.
C'est ça, donc très fier.
Je suis ivoirien, mon frère.
Merci, ivoirien d'être un guéri là, sache-le, n'oublie jamais ça.
Donc, ouais, beaucoup d'enthousiasme, par où commencer. Bon, c'est vrai qu'il y a ce sujet brûlant qui est la CAN, mais c'est vrai que nous, on voulait peut-être ouvrir le débat, ouais, parler de tout foot, parce que c'est en termes d'attention, c'est nous on dit souvent que quelle que soit ta fonction, quel que soit ton métier, que tu sois plombier, vendeur, tu dois capter l'attention et le foot capte une attention monstre. Ouais. Je crois que la finale de la Coupe du Monde, c'est une personne sur deux dans le monde qui regarde.
Ouais.
C'est tellement fascinant.
Même les non-footeux comme nous, là, on est là.
Ouais. Mais c'est. Ouais, ouais.
Mais la CAN a ce pouvoir. Hein.
Oui.
C'est. La CAN a ce pouvoir.
Non, mais en plus, c'est vrai parce que j'ai envie de dire, les passionnés de foot, c'est vrai qu'ils sont nombreux.
Mm-hmm.
Mais quand il y a de grands événements sportifs comme la CAN, la Coupe du Monde, c'est tout le monde qui regarde.
C'est ça. C'est
donc,
ça.
C'est pas que les gars qui sont passionnés, tu as les curieux, tu en as qui sont à la maison parce que papa regarde le match, qui regarde aussi. Donc, tu as les téléspectateurs directs, indirects. Et donc, tout ça, ça fait. Une belle masse.
Mais ça réveille une fibre, je sais pas, nationale, patriote.
Le sport a ce truc unique de.
C'est clair.
Et le foot est quand même le sport le plus abordable et le plus répandu. Moi, j'avais une grande question que je me pose toujours sur le business du foot, enfin sur le business de la CAN, peut-être on va commencer par la CAN, après on va remonter sur le foot en général. Okay. C'est. J'ai toujours deux questions quand je vois ce genre d'événement, c'est déjà qui paye pour tout ça? Ça, c'est une vraie. Parce qu'en fait, personne n'a jamais su m'expliquer. Quand je pose la question aux gens, ils me disent oh, mais pourquoi tu veux savoir ça? Je dis mais. Parce que c'est quand même cher. Enfin, je.
Ouais. Non, mais c'est une très bonne question.
Très bonne.
Mais tout part du modèle d'organisation que met en place, j'ai envie de dire, la confédération organisatrice.
D'accord.
En général, effectivement, c'est le pays hôte qui paye pour beaucoup.
Ah bon?
Ok, bah, le pays hôte déjà.
C'est-à-dire que quand tu candidates pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations, bah, tu sais à quoi tu t'attends. Il y a un cahier des charges qui te dit il te faut construire des stades, il te faut des infrastructures, il te faut des hôtels,
Cahier des charges, c'est la Fédération africaine, la CAF qui
c'est
te
la CAF
donne.
Qui donne le cahier des charges, c'est la boussole du comité d'organisation.
D'accord, la CAF a la marque, a le cahier des charges. Maintenant, toi tu as postulé pour organiser.
Tu vois, t'engages.
Voilà. Ouais. Tu t'engages. Alors, c'est du genre écoute je veux organiser un mariage, je prends un comité d'organisation. C'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà. Ça
c'est une fête, quoi.
Voilà, c'est une fête. Ça dit que la CAF a un cahier des charges qu'elle donne au comité d'organisation qui le suit à la lettre.
D'accord.
Et en plus du cahier des charges, il y a ce qu'on appelle le host agreement, qui est un accord, entre le pays, entre la CAF, la fédération et le pays qui organise. Donc, dans ce host agreement-là, il y a un certain nombre d'engagements que le pays prend. Donc, le pays signe, par exemple, des lettres d'engagement, de créance auprès de certaines institutions bancaires et tout ça pour garantir justement le fait qu'elle s'engage à organiser, en tout cas sans faille, et sans, sans déficit financier et tout ça, la compétition. Et donc, par exemple, dans le cahier des charges, on vous dit que vous devez mettre des stades aux normes internationales CAF FIFA. Vous devez, par exemple, avoir des aéroports ou des aérogares d'un certain niveau dans chaque ville où va se dérouler la compétition. Vous devez avoir des hôpitaux capables de prendre en charge n'importe quel blessé. Prioritairement les blessés de la compétition, les joueurs, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé de les évacuer et que tout le matériel médical, le plateau technique soit capable de pouvoir prendre en charge donc ces joueurs. Vous avez donc l'obligation d'avoir par exemple des hélicoptères médicalisés pour les évacuations d'urgence. Vous devez avoir un certain nombre d'ambulances disponible, mais vraiment des ambulances super équipées pour prendre en charge les joueurs et tout. même si ces ambulances ne travaillent pas, elles doivent être postées et être prêtes. Qu'est-ce qu'on peut dire
je
encore?
Je citerai personne, mais ça élimine beaucoup de pays.
C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup qui...
Mais je peux te dire que quand la CAN est arrivée au Mali, on en parlait tout à l'heure.
En 2002.
On a senti la différence quand il décrit tout ça.
Mais oui, parce que c'est très important. Et pourquoi les pays candidatent? C'est vrai qu'il y a le prestige du pays, il y a le rayonnement.
Oui, bien sûr.
Mais ça permet aussi d'accélérer les plans nationaux de développement et d'investissement, ce qu'on appelle les PND.
Il y a une deadline qui est quand même très forte pour tout le monde.
Voilà, et ça accélère un certain nombre de travaux, d'investissements dans le pays. Et le pays gagne en infrastructure en un peu de temps. Et c'est, je crois que ça impulse un dynamisme qui arrive.
Si chaque deux jours un pont sort.
C'est ça. Mais en plus, je pense que du coup, même moi qui réfléchis en termes de financement, j'imagine que quand on se postule pour une CAN, si on réfléchit un peu comme une fête, ça veut dire qu'après, on peut aller sur les marchés collecter plus d'argent.
Parce que tu veux dire que les investisseurs seront plus en même.
Parce que si on prend l'État comme une société, c'est comme si la société vient de gagner un marché énorme. Elle va dépenser, mais l'idée, c'est qu'elle va attirer une toute nouvelle dynamique. Elle va investir dans des ressources. Ouais. Mais pour un investisseur, c'est l'idéal d'investissement parce qu'en fait, c'est un truc qui, dans tous les cas, tu es sûr qu'il va y avoir des retours vu que ça restera dans le pays.
Bien sûr, parce qu'en termes d'héritage, c'est des choses qui vont servir à la vie de la nation pour toujours, même au niveau du sport. Par exemple, la CAN en Côte d'Ivoire, c'est inédit. Il y a 24 terrains d'entraînement. Ça veut dire que chaque équipe, chaque 24 nations a son terrain d'entraînement. Dans les autres CAN, on partageait un terrain pour deux équipes, par exemple.
C'est la première fois qu'on a ça en Afrique, là ?
C'est la première fois.
Ouais. On a fait mieux que les Sud-Africains ?
On a fait mieux.
Allez, c'est bon, ça ! Il faut qu'on en parle.
Tout le monde a son terrain.
Chaque équipe a son terrain d'entraînement.
Waouh !
Et ça...
Je me souviens qu'à l'époque, même parfois, ce n'était pas le cas, même dans les Coupes du Monde. Hein,
Effectivement, et je pense que c'est les standards qui vont rester pour les prochaines Coupes d'Afrique.
Ça va être chaud pour les prochains pays. Hein.
Mais il y en a qui partagent des hôtels quand même.
Oui, les hôtels, il y en a qui partagent. Les plus grands hôtels, effectivement, par exemple, le Sofitel ou les trucs comme ça.
Ils ont la possibilité de
gagner. Il y a deux équipes, mais en dehors de ça...
Les équipes vont au Sofitel et ils vont être distraits.
Attends, l'équipe de Côte d'Ivoire à la Maison Palmier.
Oui, la Maison Palmier, ils ont réquisitionné.
Il faut qu'on mette bien nos joueurs.
C'est ça, bon, j'aborde rapidement cette petite polémique et puis on va la refermer. Pour pallier au déficit de réceptifs hôteliers, la Côte d'Ivoire avait prévu justement dans son dossier de candidature de pouvoir construire ce qu'on appelle des cités CAN. Donc ce sont des cités où vous avez des blocs de villas par équipe.
D'accord. Oula, ah oui, d'accord. Wow.
Donc, c'est comme si tu arrives dans un grand quartier, tu as 8 villas qui sont uniquement dédiées, par exemple, à la RDC.
Les villages olympiques.
Voilà.
Les villages CAN, le Mali avait voulu faire ça aussi, mais je crois pas que ça
arrive. Et ça a été construit pas à Abidjan.
Alors, pas à Abidjan, parce qu'à Abidjan, on a suffisamment d'hôtels. À San Pedro, ça a été construit. À Boaké et à Korogo, où il y avait quand même quelques déficits. Par derrière, la CAF exige que le service soit un service de 4 à 5 étoiles. C'est le minimum.
Pour les joueurs.
Pour les joueurs.
Mais dis donc, la CAF, là.
Pour que les joueurs.
Ah, les joueurs de foot.
Faut les maintenir dans les standards et tout ça.
Faut 4 à 5 étoiles. Aucune équipe soit lésée,
Aucune équipe soit lésée. Parce que c'est une cité qu'ils partagent et dont la cité est faite de sorte qu'il n'y ait pas de croisement entre les équipes. Les équipes ne partagent rien. Chaque équipe a son bloc. Son restaurant, son
Mais que deviennent ces infrastructures après?
Après, justement, en termes d'héritage, c'est là où le pays doit pouvoir réfléchir pour savoir comment est-ce que...
Oui, parce que parfois, il y a des loupés. Moi, je sais que j'entends souvent... Ça existe même dans les Coupes du Monde. Il y a souvent un grand stade qui est créé. Et juste après, même pour le Stade de France, il y a eu beaucoup de polémiques sur « Ok, maintenant, on en fait quoi ?» Mais on en fait quoi ?
De ce gros truc, là.
De ce gros truc. On a brillé, le monde nous a vu et tout, mais bon, on essaie de faire des concerts par-ci, on essaie d'inciter les équipes à jouer de temps en temps dedans, mais...
Ouais, mais c'est bizarre parce que autant quand on n'a pas d'infrastructure, on se plaint, mais quand il y en a beaucoup, on ne sait pas comment les gérer.
C'est ça aussi.
Le problème en Europe et en France, c'est que pratiquement chaque club a son stade, tu vois. Et après, quand tu fais un super stade pour une Coupe du Monde, qui l'utilise? Bon. Mais chez nous, je pense qu'on a les moyens d'utiliser ça.
Ah, de mutualiser.
Voilà.
Ouais.
Ça permettra justement aux clubs locaux de jouer parce que des clubs comme le FC San Pedro venaient jouer à Abidjan ces matchs, ça n'avait pas de sens.
Ah ouais?
Tu as le club de Boaké qui vient jouer ses matchs à Abidjan parce qu'ils n'ont pas de terrain. Donc ça, nous, dans notre cas...
Je ne savais pas ça. Okay.
Ça va permettre justement aux clubs locaux de pouvoir avoir des stades...
Stade Laurent Pocou à San Pedro.
À San Pedro,
où les léopards brilleront.
Inch'Allah.
On va aller les regarder.
Priez pour vous, vraiment, parce que là...
Maroc...
Ah, vous êtes, DC, ça vous êtes quand même sur des gens solides en face. Hein.
Deuxième place, c'est bon.
Non, mais bon, je pense que vous pouvez sortir premier.
Non,
je pense.
Le directeur a parlé.
Ouais, non, ça n'a rien à voir avec le directeur.
C'est l'individu, le joueur.
Mais, ouais,
mais du coup, c'est intéressant. Donc, c'est les États qui payent.
Ouais.
Ouais, c'était
en tout cas, c'est l'État qui finance, franchement, à 90% la compétition.
Moi, je pensais que le COCAN, c'est l'État et la Fédération ivoirienne qui se mettent ensemble, ou il y a le comité est composé de...
Alors, j'explique.
Ouais.
La CAF, le représentant de la CAF ici, c'est la Fédération ivoirienne de football. Mm-hmm. Donc, la CAF donne mandat à la Fédération ivoirienne de football, qui est son vis-à-vis, de pouvoir organiser la Coupe d'Afrique. Et comme la FIF n'a pas les moyens, parce que c'est une fédération... Elle se tourne vers
l'État,
qui lui met en place un comité d'organisation,
d'accord,
dans lequel est intégrée la FIF. Et c'est pour ça que le vice-président du COCAN est le président de la Fédération ivoirienne de football.
D'accord.
Statutairement, c'est son poste.
D'accord.
Et ensemble, avec l'État et la fédération, est organisée donc la Coupe d'Afrique des Nations.
D'accord, voilà. Ok.
Donc, la FIF apporte son expertise technique en termes d'organisation, football. L'État apporte son expertise administrative et tout ça pour juguler un peu parce que c'est quand même ces fonds...
qui sont dedans.
Qui sont dedans. Donc, il faut mettre un directeur financier qui vient contrôler tout ça. Mais la partie vraiment organisationnelle sur la compétition et tout ça, vous allez voir qu'à l'intérieur du COCAN, c'est les gens de la FIF qui pilotent ça. Quoi.
D'accord, ouais. Ok.
Wow.
Okay. Et après, il y a des gens comme toi qui ont été pris...
Voilà, effectivement, nous, on est des techniciens sur notre segment, c'est la com, le marketing. Et bon, comme on a une petite expérience, on vient aussi communiquer.
Petite expérience. J'aime bien qu'ils disent ça, les petites expériences.
Mais c'est tout petit, mais j'avoue que j'ai beaucoup appris de cette... Oui, on finit pas d'apprendre, c'est un autre level. On fait des choses à certains
malgré
à certains
que tu aies été dans l'événementiel une bonne partie de ta carrière, là tu
non,
te dis c'est un autre level.
Non, c'est un autre level, ça il faut le reconnaître, il faut être humble. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est un mass event, ça c'est sûr.
Mais déjà rien que ce que tu as cité, en soins, en sécurité,
c'est un autre niveau.
Et un truc qui m'intrigue du coup, qui quand tu dis un autre level, mais du coup qu'est-ce qui se passe si il n'y a pas assez de pays qui sont capables de le faire? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut que les gens postulent. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. Enfin, les États...
Mais non, il y a parfois deux pays qui se mettent ensemble.
Et c'est pour ça,
organiser.
Justement, qu'il y a parfois deux pays qui se mettent ensemble. Et c'est pour ça que certains pays prennent la Coupe d'Afrique et n'arrivent pas à honorer. On a vu le cas de la Guinée qui devait organiser en 2025.
Ouais.
Et c'est des cas qui arrivent.
Donc, le Cameroun n'a pas eu chaud à cause de ça aussi, que je salue.
Non, mais du coup...
Je salue le continent pour ce moment-là. On est ensemble. Big up, la FIFA. Tranquille. On est obligé de leur mettre une petite donner en passant, mais tranquille.
Du coup, l'Égypte a pris la CAN de Cameroun et le Cameroun a décalé. Ce qui a aussi arrangé, puisque la Côte d'Ivoire aussi a gagné
un peu
deux ans de préparation.
Temps, voilà, pour se préparer et tout ça. Donc,
c'est vrai que la CAN, c'est tous les deux ans
en fait.
Ouais, c'est
tous les deux ans.
J'avais pas réalisé.
Mais d'ailleurs, sur je disais tout à l'heure, sur tous les deux ans, il y a souvent des débats en Europe parce que les meilleurs joueurs africains jouent en Europe. On dit, mais tous les deux ans, pourquoi ils ne font pas tous les quatre ans comme en Coupe d'Europe? Et j'écoutais une émission où le gars disait, mais ce que vous ne savez pas, c'est que déjà, d'un point de vue, pour que le niveau sportif évolue, c'est important que les meilleurs joueurs viennent se confronter. Et de deux, c'est comme on l'a compris à travers tes propos, c'est quand même un outil de développement.
Pour les pays, ça oblige un pays africain tous les deux ans à se donner pour élever le niveau d'infrastructure.
Et un pouvoir d'attraction. Enfin, là,
bien sûr.
Tu es vraiment, tu as les yeux, et tu le ressens ça, les yeux du monde qui sont rivés.
Ah oui.
Ouais.
Tu le ressens quand tu reçois des coups de fil des ambassadeurs qui t'appellent pour te dire, Tanguy, on a besoin de communiquer dans nos ambassades. Tiens, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale.
Ça mais vient de partout, ouais.
Tu sens que...
Ouais. Ah, parce que oui, il doit y avoir un volume de gens qui veulent des visas, il doit y avoir plein de choses qui se jouent derrière.
Et c'est donc... pour ça que tu es obligé de l'organiser avec l'État, en fait. Parce que
absolument.
Les trucs à l'aéroport et peut-être des gens qui ont besoin de passes rapides, de visas express,
oui,
de
non, mais
tout
c'est,
ça.
C'est une organisation intégrée, mais qui demande d'être très minutieux et d'être vraiment... C'est une qui mérite d'être inclusive. On ne peut pas se faire l'économie de se passer d'un service... ou d'une compétence, ou d'un domaine de l'État, tout le monde est impliqué. Le protocole d'État, la sécurité d'État, la défense.
Ils ne doivent pas rigoler en plus.
Ouais. Ouais, tu vois, et c'est tout le monde. Et je crois qu'on ne mesure pas, en fait, de l'extérieur, ce que ça représente d'organiser un tel événement, mais c'est costaud. C'est vraiment costaud. Et la visibilité du pays à l'extérieur, et ça, c'est important. Et moi, qui suis à la communication, je me rends compte que c'est très important. L'image du pays,
ouais,
le prestige du pays que tu portes sur une partie de tes épaules aussi, parce que tu as une petite charge, parce que tu gères la marque quand même du pays, même si tu n'es pas totalement en front, parce que tu travailles avec les services de l'État, le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Je travaille avec le service de communication de la présidence, de la primature.
Ça, c'est pas, tout ce c'est qui... pas une blague.
Voilà, tout ça, l'État. Tu travailles et tu apprends. Comment est-ce que l'État fonctionne? Comment est-ce que la communication institutionnelle à un certain niveau marche? Il y a des codes, il y a les canaux. Voilà, on communique pas n'importe comment. c'est tout ça.
Mais du coup, dans ce cas-là, dans ton rôle, le succès ressemble à quoi? Quand on prend ce poste, parce que moi je me dis, un poste comme ça, moi j'aurais trop peur. Parce que comment tu dis, le responsable marketing a fait un excellent boulot sur la CAN, comment on sait que ça a marché? Parce que j'avoue, c'est dur à mesurer, non?
C'est dur à mesurer. Il y a, un indicateur qui est subjectif, c'est l'appréciation populaire, de savoir si ça a marché ou pas. Mais il y a un indicateur qui est beaucoup plus objectif, qui est interne. C'est comment est-ce que tu interagis avec tous tes clients internes? Tous ceux qui te sollicitent, tous ceux qui parlent avec toi, comment est-ce que tu centralises les choses, tu dispatches, tu résous leurs problèmes au niveau des ambassades, des institutions qui te disent on a besoin de ça, de ça, de ça, comment est-ce que tu anticipes? Voilà. On a prévu un kit de communication pour les ambassades parce que c'est la première vitrine de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Quand on arrive, il faut qu'on sente qu'il y a la CAN en Côte d'Ivoire. Tu vois, tout ça, c'est des choses que les gens ne voient pas. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais ce sont des outils de com que tu dois intégrer et implémenter dans ta stratégie. Donc, tu as ça, qui sont les indicateurs de réussite. Et puis, tu as l'appréciation populaire qui est beaucoup plus subjective.
Ça, ça doit être dur, ça.
Ouais. On ne sent pas la CAN, on ne sent pas la CAN sur les réseaux.
Ah
on
oui, voit j'ai vu une vidéo, des gens qui disent « Ouais, mais... » On sent pas l'ambiance, etc.
Non, mais,
okay, ouais.
Non, mais tu les comprends.
Mais tu les comprends, c'est-à-dire?
Ça n'a pas commencé, ils sont où, là?
Ça n'a pas commencé.
Je les comprends. Parce qu'ils sont habitués à faire la fête. Et puis, il faut comprendre ta cible. En fait, le peuple ivoirien est exigeant, mais c'est une bonne exigence. Ils aiment les choses bien faites, ils sont proactifs, ils veulent que tout se fasse en même temps.
Ils aiment la nouveauté,
ils
veulent
la nouveauté, ils sont passionnés et tout ça. Mais nous, on a d'autres priorités. Pas que c'est des priorités, mais on a d'autres leviers, tu vois. Et puis, on a adossé un cahier des charges qui fait que on ne peut pas tout faire en même temps.
Oui, mais après, il y a des choses qui se font de manière organique. C'est-à-dire sur l'ambiance. Bon, tu fais ta affaire, mais derrière, c'est les gens qui vont s'emparer de l'événement.
Moi,
enfin... Quand on va à une compétition, moi j'ai été une fois à une Coupe du Monde.
Ouais,
c'est du Brésil comme moi. Tu vas avant quoi, tu vas.
Ouais, tu étais à la Coupe du Monde du Brésil, tu m'as dit.
Brésil, toi aussi d'ailleurs.
Ouais.
Et en général, tu vas quand la compétition a déjà commencé. Parce que chaque nuit, ça coûte quoi. Donc moi je sais qu'il y aura plein de gens
qui sont
là sur les deux premières semaines ou d'autres qui prévoient d'aller.
Les deux
d'ailleurs, on a une communauté Telegram là qui nous suit. On a fait un groupe là à Cannes, donc c'est tous des gens qui vivent en Allemagne, en France pour la plupart et tout. Mais t'as au moins une quinzaine
qui descendent.
Qui descendent en fait. Mais tu vois les dates,
C'est souvent ou au début,
soit les deux premières semaines, soit les deux dernières semaines.
Ouais, non, en fonction des matchs, des billets qu'ils ont eu à prendre pour les matchs et tout. Ouais,
de leur congé,
de leur congé, c'est planifié, voilà.
Et pour venir toujours sur cet aspect financier, donc on a parlé effectivement de l'État qui met les sous, mais du coup, que représente, alors à la fois dans le business du foot et peut-être plus précisément dans la CAN, tout ce qu'on entend souvent dans les médias, à savoir, je sais pas, les revenus de billetterie, les revenus de droits télé, on voit aussi beaucoup de sponsors. Ça, est-ce que ça, c'est également pour l'État pour organiser, ou alors c'est une autre enveloppe, ça n'a rien à voir?
Alors ça, c'est une enveloppe particulière.
Là, on parle de quelle enveloppe?
On parle de l'enveloppe de la CAF.
D'accord. Ah, la billetterie, peut-être. Alors.
Ce que je veux faire comprendre, c'est que l'État met en place les infrastructures, donne les moyens pour organiser. Les recettes de la compétition, dont la billetterie, le sponsoring et peut-être d'autres choses, appartiennent à la CAF.
D'accord.
Qui partage un pourcentage avec l'État.
D'accord.
Le pourcentage, il n'est pas très élevé. Mais la CAF est propriétaire de l'événement.
Donc ça veut dire que l'État dépense, puis il n'y a pas de côté entrée.
Alors, ce que l'État gagne.
Ah oui, c'est les gens qui viennent.
C'est les taxes, les visas.
Il y a un écotourisme qui se développe. On a la destination Côte d'Ivoire qui est prisée.
Ouais. L'aéroport et tout
on
ça.
A des investissements
beaucoup,
qui sont là. On a. Si vous voulez, en termes de consommation, de niveau de consommation, vous allez voir que pendant les un mois,
il y aura un boom.
Tous ceux qui arrivent, les gens vont dépenser de l'argent au niveau des hôtels, au niveau de tout ce qu'il y a comme commerce et tout. La Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien va pendant un mois vivre avec la CAN.
Oui, donc il y a l'humeur des gens aussi. Ça, ouais.
Le commerce va se développer. Donc ça, ça profite à l'État. Ça profite à l'État et puis l'État n'est pas tout à fait perdant parce que l'État a une ristourne sur les recettes aussi de la CAF qui sont générées.
D'accord.
Mais voilà, je pense que en somme, on organise la CAN. C'est vrai, il y a le volet business, mais j'ai envie de dire que pour l'État, c'est plus l'image et le rayonnement.
Ouais, soft power.
Du pays, c'est vraiment le soft power parce que ça. Ça n'a pas de prix sur le long terme. C'est très important en termes de positionnement à l'international.
Puis tu sens aussi, je pense, un élément qui joue aussi, enfin qui est important, c'est l'humeur des gens. C'est-à-dire que la fierté dont les gens de dire c'est chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous, pendant plusieurs années, pendant l'organisation. Bon, forcément, si l'équipe nationale fonctionne, c'est encore mieux. Mais c'est pas à négliger, quoi. Ouais. Mais du coup, sur ces enveloppes qui, dans le cadre de la CAN, vont à la CAF, qui est en fait propriétaire, effectivement, de l'événement, est-ce que tu peux nous parler, si on sort un peu du domaine de la CAN, aujourd'hui, dans le business du foot, qu'est-ce qui fait qu'on entend autant de grands chiffres? Est-ce que c'est plutôt les droits télé, la billetterie,
les maillots,
ouais, tout ça? Le business du foot, en fait, comment le comprendre?
Alors, ce que je veux dire, c'est que le foot génère beaucoup d'argent, déjà à cause de la passion. Ça, c'est la première des choses.
L'attention.
Mais tous ceux qui sont en back-office du foot, ne sont pas forcément les acteurs premiers du foot. Celui qui développe un logiciel de billetterie, de vente de billetterie, n'est pas forcément un acteur du foot. C'est un gars qui est dans les IT, qui est dans le logiciel, génie logiciel, qui développe. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un autre secteur, mais qui a pu comprendre que le marché du foot peut lui apporter quelque chose. Celui qui développe, du merchandising dans le foot, c'est d'abord quelqu'un qui a une marque, qui sait ce que c'est que faire des produits dérivés et qui a compris que le foot peut être bénéfique pour lui. Donc déjà, tous les autres secteurs, indépendamment du foot, sont touchés et peuvent donc avoir un intérêt dans le foot. Et c'est là que se trouve la clé. Chacun dans son domaine doit pouvoir avoir un regard pointu et aigu pour savoir quelle est la niche qui peut dénicher dans le monde, dans le marché du football, qui est un marché comme tout autre. c'est parfait. C'est dans le e-commerce, mmh. dans tout ce que tu fais, c'est même vrai, dans
un jeu vidéo là, tu vois, FIFA, il se gave.
C'est ça. Et c'est, mmh. c'est ce qu'il faut comprendre, qu'au-delà de l'aspect sportif, il faut regarder le marché dans sa globalité. Mmh. Pour savoir ce qu'on peut dénicher dedans. Comme mmh. tous les marchés mmh. qui sont d'abord nouveaux au début, qui commencent à se démocratiser, à grandir, il y a toujours un point d'ancrage qu'il faut chercher par rapport à son activité première.
D'accord.
Et c'est là qu'on peut faire du business. Mmh. Soit on le trouve, soit on le crée. Mmh. Et c'est comme ça que ça vient. Et c'est comme ça que les gens trouvent. Bon, moi, je prends l'exemple du salon africain du football que j'organise. Oui.
Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Comment ça se passe?
Je me rends compte qu'on a la compétition sportive qui est la CAN, mm-hmm. qui a lieu chaque 2 ans. Tous les athlètes viennent, on joue, vainqueurs et tout ça. Mais c'est purement sportif. Et mais je me rends compte également aussi qu'en dehors de cette compétition sportive, il n'y a aucune plateforme de réflexion qui peut réunir tous ces acteurs-là qui viennent. Mmh. Entraîneur, équipementier, sponsor, mmh. Je sais pas, joueur, mmh. agent de joueur, mmh. Voilà, sur un même plateau pour parler business, mmh. pour échanger des bonnes expériences mmh. et pour créer une symbiose. Parce que c'est des échanges que naissent la lumière. Mmh. On peut ne pas tout de suite, sur un échange, trouver quelque chose, mais à force de. Donc, répéter ce genre de rencontre avec plusieurs acteurs qui, a priori, qui sont dans le football, n'interagissent pas forcément, pas parce qu'ils sont dans le football qui se voit tous les jours, non. Par mm-hmm. exemple, tu as, je ne sais pas, un agent de joueur de football, il ne rencontre pas tous les jours le médecin sportif, je ne sais pas. Mm-hmm. Alors que peut-être quelque part, il y a une connexion à faire, il y a un lien de connectivité à avoir. Et c'est en les rapprochant qu'on peut trouver ça. Donc moi, je me suis dit, bon, attends. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut pouvoir les réunir et puis mettre des thématiques. Comme j'aime bien réfléchir, que je suis un homme de réflexion, je pose des sujets qui amènent les gens à débattre. Et je t'avoue qu'à travers ça, les gens se rendent compte que c'est véritablement une plateforme qui leur permet d'échanger, de réseauter et puis de découvrir d'autres champs de leur activité qu'ils n'avaient pas eux-mêmes perçus parce qu'ils étaient cloisonnés dans leur métier. Et c'est comme ça que la CAF se dit, mais attends, nous-mêmes CAF, on n'a jamais pensé à le faire. On organise, on est focus sur la CAN parce que d'une CAN à une autre, il faut toujours organiser, mais on ne prend jamais de recul pour savoir que, écoute, en dehors des athlètes, il y a tout un écosystème qui vit a besoin d'être aussi réuni comme une sorte de CAN. Quoi.
Bien sûr.
Et c'est comme ça que moi, je positionne le Salon africain du football comme le deuxième plus grand événement sportif sur le continent après la CAN. Quand on a fini de jouer au football, posons-nous pour savoir comment est-ce qu'on organise ce football, comment est-ce qu'on pense la carrière des gens, comment est-ce qu'on pense la reconversion des sportifs qui vivent une vie de rêve quand ils sont en activité.
Mais parfois...
Et après, la chute est brutale parce qu'on n'a pas pensé à l'après. À l'après sport.
Ouais, il y a beaucoup de cas comme ça d'ailleurs.
Il y en a plein.
Ah ouais. Et d'ailleurs à ton salon, on retrouve.
Donc si, juste pour terminer ta question.
Des stars.
Ah oui.
Juste pour terminer sur ta question.
Ouais.
Moi, je suis dans le marketing et dans l'événementiel.
Ouais.
À la base, tu vois. Et c'est comme ça que dans le prolongement de l'événementiel et du marketing. Je me dis, pourquoi ne pas faire un événementiel dans le sport, dans le foot. Voilà. Donc, ça part du fait que je suis d'abord spécialiste du marketing et de l'événementiel.
Mais tu as vu le foot comme un marché.
J'ai vu le foot comme un marché et j'ai vu une opportunité dans le foot et je suis allé créer quelque chose qui n'existait pas.
Et dès le début, tu es allé voir la CAF ou tu as fait sans eux? Ça fait combien d'années?
J'ai fait sans eux parce qu'il faut... Il faut
commencer par leur montrer que ça marche.
Voilà, justement, ça marche.
Il y a des gens qui auraient dit, mais moi, je vais d'abord
tant
aller
que,
voir.
Tant que j'ai pas la CAF, tant que j'ai pas la FIFA, je commence pas.
Faut pas attendre ça. Et ça, c'est une règle d'or pour tous ceux qui entreprennent.
Bien sûr. C'est pour ça qu'on le dit. Même là, c'est vrai.
Même là, c'est vrai, tu vois. Et ta crédibilité, tu l'acquiers quand tu fais tes preuves.
C'est ça.
Voilà,
et après, tu sois tellement bon qu'on ne peut pas t'ignorer. Ils viendront.
Absolument. Et c'est ce qui se passe.
Et il y a pas mal de joueurs ou d'anciens joueurs qui viennent, même des joueurs européens qui viennent partager leur savoir. Et c'est vrai, moi, je vous disais tout à l'heure que ça me frappe toujours parce que, j'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, mais je n'ai jamais pensé à entreprendre dans le foot, quoi. Je n'ai jamais eu vraiment de...
Tu n'as jamais voulu prendre un des footballeurs comme influenceur, t'as jamais voulu.
Si, mais ça, jamais... c'est différent. Enfin, ça, c'est différent parce que ce qui serait vraiment un truc, si je vais dans l'idée que tu disais, c'est par exemple, si je spécialisais, si je faisais un département marketing digital, foot. Et bah on fait beaucoup d'actions dans le foot, mais je n'ai pas fait de ce genre de spécialisation.
Tu ne t'es
pas
dit, je vais être l'agence digitale des joueurs de foot,
non,
ni des clubs.
Non, bah, tu... non. Bah, pourtant, j'ai eu une opportunité avec, tu connais Christopher Nkunku?
Oui,
ouais, voilà. Il est en équipe de France. Et, ouais, et donc, il joue au PSG, maintenant il est à Chelsea. Ouais. Et je connais bien son entourage. Mmh. Après, je me disais, bon, à distance, tu vas gérer quoi, etc.
T'as laissé.
Ouais, mais c'est vrai que, comme tu dis, ça devrait être un marché où les entrepreneurs devraient vraiment voir des opportunités. Mais on a l'impression que ça va se fermer. Il y a beaucoup d'argent, mais on a l'impression que c'est fermé.
Il faut percer.
Le jeu vidéo, c'est ça. La compétition, c'est ça. Les agents, c'est eux. Tu vois?
C'est parce que, si tu vois, en réalité, les... surtout en Afrique, les clubs n'ont pas encore compris que ils sont eux-mêmes des entreprises.
Ah, intéressant.
Et des marques. Voilà.
Et des marques à part entière. Et c'est ça le problème du développement du football africain. C'est d'abord la professionnalisation de notre football, mais qui passe pas forcément de grands moyens. Tu parlais de digitalisation. Moi, je te donne une idée. Va voir, par exemple, je sais pas, je dis n'importe qui, la SEC ou le Stella Club, je sais pas, truc.
Ah, SEC Mimosa, c'est ça?
Ouais.
C'est une équipe de foot que je connais en Côte d'Ivoire.
Ouais. Tu vas le voir. Et tu leur proposes un véritable plan de marketing digital. Pour, aujourd'hui, tu vois, on a pas cette attractivité des clubs au stade.
Ouais, ça, c'est un gros problème.
Mais virtuellement, on peut créer une véritable communauté. Et ça va même booster leur vente. Tout ce qu'il y a comme maillot, comme équipement, tout ce qu'il y a comme merchandising, tu peux le positionner sur le digital. Et puis, voilà, ça se fait en Europe, tu vois. Acheter des maillots, ce truc. Tu peux créer une véritable communauté. Tu as des millions de supporters qui disent qu'ils sont supporters de la SEC, mais qui ne vont pas au stade.
Ouais. Ah ouais?
Comment les ramener au stade?
Alors qu'il y a 20-30 ans, les gens allaient au stade.
Donc, ça peut être...
Mais voilà, il faut leur vendre des shorts, tu vois. Leur vendre une autre...
Oui, il faut... Non, mais ça, c'est vrai. Il faut vraiment des extraits pour leur donner des gestes techniques.
Sur l'historique du club, tu développes
un storytelling
sur ça. Tu rappelles la fibre des mimosas, comment, tu vois. Et puis, tu travaille un bon plan. Tu vas voir les gars de la SEC. Je te présentais le directeur de la SEC.
Hop là, il y a un peu de... Et une passe D comme ça, une passe décisive.
Je ne suis plus à la SEC. Et ce que je voulais dire, ça me faisait penser, il y a un jeune qui s'est mal démarqué ces dernières années, Jonathan, il s'appelle Morrison, qui lui a carrément créé son tournoi de Maracana. Donc voilà, bon, c'est pas le foot, mais il a justement joué sur ce que tu dis là, c'est-à-dire raconter une histoire autour des équipes, des quartiers. Et là, t'avais des stades, enfin des salles vraiment full de gens, quoi.
Il a vraiment développé ça, il en a fait une véritable marque.
Et les gens disaient, c'est plus suivi maintenant que la Ligue 1,
voilà.
Ah bon?
Non, parce que
c'est vrai qu'il a fait un travail dessus. Mais c'était pas ça. Après, il y avait des questions sur comment c'est arrivé, comment c'était financé, etc. Parce qu'il y a tout un point aussi là-dessus.
Ce qui a où il a peut-être péché, c'est peut-être en termes de gestion. Si tu m'écoutes, Jonathan, je te blâme pas. C'est peut-être en termes de gestion. Mais ce sont des expériences qu'il faut, desquelles il va apprendre. C'est pas évident de gérer, j'ai envie de dire, un tournoi comme ça. C'est d'abord travailler sur le business model. Oui, les équipes payent des cotisations ou des tickets d'entrée pour pouvoir jouer sur le sponsoring. Et puis ensuite, équilibrer au niveau des charges et des coûts de ce qu'on veut faire. Parce que c'est vrai qu'il en met plein la vue. Mais est-ce que...
Derrière, ça...
Est-ce qu'il ne faut pas modérer et puis permettre au tournoi de grandir et de s'auto-financer au fur et à mesure voilà, parce qu'à force de vouloir faire les choses bien tout de suite, grandiosement et tout, ça peut avoir aussi un impact par derrière sur le business model. C'est-à-dire qu'on donne, on le met à un certain niveau alors que peut-être que en termes de financement et de structuration, c'est pas...
Ça ne se justifie pas.
Donc l'image est là et la réalité est tout autre en bas et c'est peut-être ça, en tant qu'entrepreneur, que je peux ouais. dire, il faut monter les choses crescendo. Mais en tout cas, c'est un très beau concept qui, pour moi, de l'avenir et qui se porte bien. Malheureusement, il y a eu encore des histoires sur les droits de, en termes de droits de propriété.
Propriété donc, de quoi? Du tournoi?
Du tournoi, du nom, déjà, Cam Chen Chen. Sur lequel voilà, il s'est fait débouter parce que ça appartient à quelqu'un d'autre qui avait déjà déposé à l'OAPI.
Comme tout business, il faut déposer à...
Voilà, donc là, il vient d'annoncer qu'il va changer de nom, je ne sais pas lequel.
D'accord.
Donc, en termes de naming, il va devoir reconstruire une image, retravailler.
Une marque.
Une marque et tout ça.
Ça, je ne savais pas, c'est une sacrée histoire, ça.
C'est une sacrée histoire. Mais il est très tenace, il est très combattant, donc c'est quelqu'un de très combatif, pardon, c'est quelqu'un de très positif. Je nul doute qu'il va rebondir parce qu'il a une très forte communauté avec lui. Donc, voilà.
Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mêmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en ouchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti du quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kaya et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram.
Et du coup, sur le foot et le business, donc on entend aussi beaucoup parler des médias, de la télévision, ouais. parce que pour le coup, s'il y en a bien qui ont compris ce que le football pouvait leur apporter, c'est souvent les médias. Donc, ça se passe comment? Parce que, de ce que je comprends, en tout cas, ce qu'ils disent, eux, ils payent très cher.
Ouais, en tout cas, ils annoncent chaque année.
Et du coup, derrière... Eux, leur modèle, c'est de voir les annonceurs pour faire des pubs à la mi-temps,
ça,
etc.
Ça, c'est le premier levier.
D'accord.
Donc, c'est justement de payer les droits et de pouvoir avoir un retour sur investissement avec les annonceurs et tout. Et puis, après, c'est vraiment d'élargir son niveau de téléspectateurs, mais qui a aussi un impact sur les pubs qui vont revendre aux sponsors. Parce qu'après, ils ont des indicateurs pour justifier le nombre, justement, de téléspectateurs qui regardent et qui, voilà. Donc, c'est un investissement sur le long terme. Vous allez voir que ces droits télé qu'ils achètent, en général, pour les grands groupes médias, ils les achètent sur une ou deux éditions. Pour pouvoir vraiment être rentable.
D'accord.
Et donc, les coûts de pub qu'ils vont faire sur la première édition ne seront pas les mêmes qu'ils vont faire sur la deuxième édition. Et c'est là qu'ils vont vraiment rentabiliser.
Ah ouais.
Voilà. Parce qu'ils auront pu justifier qu'après la première édition, ils ont eu un pic de téléspectateurs. Donc et donc, l'audience...
Ils pourront mieux vendre après.
Et ils pourront mieux vendre après.
Mais voilà. Moi, j'ai entendu que... je sais que depuis un mois, Canal+, ils n'ont plus de place pour les annonceurs. toutes les cases sont réservées. Canal, toutes les cases de publicité.
Ah, des publicités pendant la CAN, c'est full.
C'est full.
Non, eux, ils sont arrivés à maturité.
C'est-à-dire que, c'est genre, au stade de aller voir telle chaîne.
Allez voir les autres là qui ont pris les droits. Nous, on est full.
C'est clair. Non, mais justement ça. C'est justement, ils sont vraiment à maturité de leur business model. Et voilà, ils refusent aujourd'hui des annonceurs, quoi.
Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas beaucoup d'événements où tu peux te dire, je suis sûr que si je fais une pub pendant, la moitié du pays, voire tout le pays va voir.
Ouais. Pardon.
Et sur une chaîne comme Canal+.
Ouais.
Voilà, donc, tu fais de la pub, mais je fais de la pub sur telle chaîne. Et donc ça, tu es sûr qu'en termes d'impact, tu loupes pas ta cible.
Ah, et c'est pour ça qu'ils ont fait une chaîne spéciale Cannes.
Ouais.
Ouais, ça ouvre encore des cases publicitaires.
Parce que du coup, ils vont diffuser ailleurs que sur la chaîne Cannes ?
Ça, je ne sais pas. Parfois, il y a les directs sur une chaîne, puis les rediffusions sur une autre.
C'est clair.
Ah, donc beaucoup de gens regardent les deux aussi.
Ouais.
Ah ouais.
Parce que beaucoup de gens regardent en rediff. Si tu travailles, tu veux regarder le match.
Effectivement.
Après, tu as les trucs d'analyse après match.
Oui, les émissions.
Et là, tu vends de la pub aussi.
Ouais, voilà. Et Canal, je crois, va plus loin parce que dans sa chaîne Canal, il crée des programmes autour du foot. Par exemple, il y a une émission où on interviewe les femmes de footballeurs.
Non.
Il reste dans l'esprit. Ouais, chacun. Okay. Là, j'ai vu NCI développe une émission avec. Enfin, c'est un truc humoristique. C'est un marabout qui essaye de deviner les scores. Ouais. Tu vois, donc tout le monde essaye de créer son truc. Et moi, je le vois avec les marques. Donc parce qu'on est on travaille avec beaucoup de marques qui sont sponsors du coup
attends, prends le temps, dis bien Totem Expérience.
Oui, mais de toute façon les marques elles sont enfin on les connaît, c'est Visa,
c'est ça.
On travaille avec Visa, EcoBank, Orange, Total Energy.
Ouais.
Et j'espère que j'oublie personne. On travaille aussi avec la CAF.
Voilà. Donc du coup il faut que tu dises la phrase que tu as mise sur les internets qui résume ça bien.
Ouais.
Totem Expérience représente la majorité des sponsors de la CAF.
Sponsors majeurs, ils nous ont confié.
Les contenus vidéo de la CAF, c'est vous ? C'est toi ?
Alors, oui, en collaboration. Mais ils font les... sur certains, ils font les montages.
Ouais.
Parce que ils veulent que ça soit exactement pareil que...
En termes de charte et tout ça.
Ouais, en termes de charte, ça permet de gagner du temps. Mmh. Et nous, là, j'ai des gars qui sont à San Pedro, d'autres qui sont à Boaké et tout ça.
Ah bon, tu vois, donc tu es dedans, là.
Ouais, ben, on est dedans.
Il fait exprès.
On a pas,
il fait
mais semblant. Oui, en fait, ce qui me tue, c'est ça avec lui. C'est le gars, il te dit semblant, il fait léger comme ça.
Il te pose des questions comme s'il ne sait pas.
Comme s'il ne sait pas. Mais oui, je te sens pas, là.
Comme si tu ne sais pas comment faire du business dans le foot.
C'est ça. Tu vois le point, oui. Tu vois,
non ?
C'est léger, en fait.
Non, bon point. Non, je parlais plus de créer une entreprise autour du foot.
Tu vois le gars, non ? Non, non, franchement.
C'est ça avec Totem. Franchement, c'est vrai que Ligue des Champions, on fait avec Heineken. Une Coupe du Monde avec Coca, on est non, sur ces créneaux-là.
Sur ces créneaux, tu es dedans.
Oui.
Donc tu as quand même fait du foot indirectement. Tu lui demandes à Tanguy, qu'est-ce que entrepreneur.
Non, mais parce que moi, je pensais aux auditeurs et je me dis, je voudrais que pendant cette CAN, les gens qui ont une âme d'entrepreneur ou qui sont entrepreneurs ouvrent les yeux et essayent d'identifier des opportunités pour peut-être rejoindre ton combat qu'on a compris. Toi, tu veux que le football africain. Est vraiment une place à la table du monde. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on a de plus en plus de champions qui jouent dans des grandes équipes, mais en tant que on va dire ce qu'on pèse par rapport
secteur
au football
business,
mondial,
on est
encore
on est encore
très loin. Et moi, par rapport à ça, je pense qu'il y a aussi un truc qui me gêne, qui est dommage en tout cas, c'est je trouve que nos joueurs emblématiques, par exemple, en termes de personal branding, ils pourraient faire beaucoup plus. Et ça tire aussi, je trouve, vers le haut. C'est-à-dire que tout le monde sait que, OK, Mané et Salah sont deux très grands, excellents joueurs. Mais les gars, bon, marquent des buts, ils vont boire leur thé, ils rentrent. Bon, ils font rien. Il faut faire rêver. Ouais. J'ai l'impression qu'en termes d'image, par exemple, à l'époque de Drogba et tout, on avait plus les yeux rivés parce que au-delà du terrain, il y avait aussi, tu les sentais habiter d'une mission. Ouais. Je représente le football africain et beaucoup, une génération aussi s'appuyait là-dessus, tu vois.
C'est ça. Non, mais effectivement, c'est lié à la personnalité de chaque joueur.
Ouais. Oui, on peut rien faire, mais bon.
Les gars, ils ont l'argent quand même pour payer Totem pour gérer un peu leur présence digitale, quand même.
Mais tu as l'impression que ça.
C'est
ça,
pas une priorité.
Ça, ouais. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est des personnalités. Ouais. Tu vas pas leur demander de, tu vois, ça là. Ouais,
Sadio Mané, c'est quelqu'un de très réservé et tout.
C'est la seule fois où je fais une story, c'est quand il va à la Mecque.
Ouais. Ou qui vient de se marier. Là, les gens en parlent.
Ouais. Non, mais je trouve qu'il loupe quand même quelque chose.
Même si c'est pas pour eux. Ça devrait être, tu vois, on a besoin en fait de figures. Le marketing sportif, ça passe par là.
Ouais, que les figures s'engagent dedans aussi.
Ouais, il faut qu'ils nous donnent à manger.
Il faut qu'ils nous donnent à manger. Non, mais c'est intéressant parce que moi, un truc que je vois par contre, je ne sais pas si c'est le cas, dans le même truc que tu dis, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'il n'y a pas, je ne sais pas si tu peux confirmer mon nom, Tanguy, c'est que beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y a pas, tu sais, c'est un peu comme les startups. Nous, on se plaint qu'il n'y a pas assez des milliardaires ou des millionnaires ou des gens qui font de l'argent, qui n'investissent pas assez dans le business des startups. J'imagine que dans le foot, ça doit être pareil. Les gens doivent se plaindre en disant « mais on a plein de… » Au Nigeria, les gens se plaignent en permanence que les milliardaires ne fassent rien pour le foot local.
C'est vrai, tiens. Ouais. Pourquoi est-ce que ceux qui n'investissent pas… Enfin bon, il y en a qui investissent, Sifcom… T'es longtemps sponsor de la SEC.
En fait, les gens parlent de sponsoring, c'est différent d'investissement, de ce que je comprends.
Oui,
c'est comme si tu es client. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le business,
tout ça. Un peu plus comme ce que Moïse Katumbi a fait avec.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a une méconnaissance du milieu et les gens ne s'approchent pas pour comprendre, savoir ce qu'ils pourraient gagner. Mm-hmm. Et c'est dommage. Ils loupent, à mon sens, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et puis, je me dis aussi que. Les premiers investisseurs dans le foot doivent être les acteurs, les footballeurs eux-mêmes.
Ah, intéressant. C'est vrai qu'est-ce qu'ils investissent dans le foot?
Oui, très parfois peu. Ils give back dans les formations.
Oui, mais c'est de la charité, c'est pas la même chose.
Kai. C'est classique. Et
c'est là pas où de l'investissement.
C'est là où je parle de reconversion. Mm. Tu vois, pour moi, les gars, ils font ça, mais c'est classique en fait. C'est-à-dire que c'est. Bon, j'ai fait l'assurance toute ma vie. Quand je finis ma carrière d'assurance, je me reconvertis en agent d'assurance également. Où j'ai fait, j'ai fait banquier toute ma vie. Quand je finis pour ma retraite, je fais quelque chose qui a, tu vois. Pour moi, c'est du classique. Et tu vas voir, la plupart du temps, il n'y a pas de véritable vision dedans. Alors qu'il faut aller au-delà. Il faut je pense que pour ce qui gagne dans le foot, je pense que si c'est bien pensé, c'est bien structuré, ils peuvent eux-mêmes créer une véritable industrie du foot.
Ouais.
Une véritable industrie avec une chaîne
de valeur. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une culture business qui est différente de.
Business qui est différente de.
Juste, je give back.
Voilà, tu vois.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Tu comprends?
Mais en fait.
Je veux aider les jeunes qui veulent. J'ai créé un centre de formation. Et tu vois, la plupart du temps, comme il n'y a pas de vision par derrière, ça va pas loin, ce centre de formation.
Parce que le but, c'est pas d'en faire, de faire de l'argent. Si les gars disaient. Je veux créer des centres de formation parce qu'ils voient les joueurs comme des investissements qui veulent amortir et qui commencent à se dire d'ici 5 ans, comme un fonds d'investissement,
tu vois,
je dois faire tant de retours, il me faut des joueurs qui.
Ils vont monter différemment ce centre de formation et tu vas voir que dans la structure de ce centre de formation, ils vont le faire beaucoup plus professionnel. Ils vont mettre beaucoup plus de moyens parce qu'ils attendent un investissement sûr. Tu vois.
C'est sûr.
Mais quand. Tu veux juste aider des gamins parce qu'ils sont dans la rue, qu'ils veulent sortir. Tu veux leur donner une chance.
Voilà. C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Mais en fait, parce que moi, j'ai le sentiment, pour que tu sois plus audible, c'est plus facile si ton équipe nationale est forte. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, entre guillemets, l'âge d'or 2010 à 2020 du football ivoirien, je pense que elle est, s'il y a cette décision... qu'a eu Wenya à l'époque de d'investir sur Jean-Marc Guillou qui a créé en fait cette génération là qui
ça,
représente après 70% de l'équipe.
Tu vois, ça je suis pas au courant, tu vois, mais je vois que tu es expert. Tu vois, non mais là tu parles d'un vrai truc d'expert, tu vois, c'est pas
pour faire rapide fin au milieu des années 90, la SEC Mimosa décide de créer un vrai centre de formation avec un Français qui s'appelle Jean-Marc Guillou. Il fait une sélection vraiment très fine dans tous les quartiers, de, je sais pas, une quinzaine, vingtaine.
Oui, toutes les communes d'Abidjan, les dix grandes communes.
Et ils avaient moins de 14 ans à l'époque.
C'est ça.
Ils les gardent pendant 4-5 ans, et ils deviennent en fait, joueurs, c'est-à-dire ils les mettaient même en Coupe d'Afrique, ils battaient toutes les équipes.
Ah bon?
Mais tout ce que tu vois, Kolo Touré, Yaya Touré,
Salomon Kalou et tout.
Attends, tous ces gars-là viennent de cette génération?
C'est la même génération.
Tout ça, c'est la même génération.
Même génération.
Et c'est eux qui ont rendu la SEC Mimosa aussi célèbre ou?
Ouais, la SEC
était déjà célèbre, effectivement. Ouais, c'est base. Un club légendaire.
Mais
c'est,
en termes de retour
mais
sur investissement.
En termes de joueurs qui finissent à Arsenal, ouais. City, Barcelone, etc., ouais. C'était du jamais vu. Donc,
Il y a une logique d'investissement qu'on peut pinpointer à un individu ou un groupe d'individus qui ont décidé de professionnaliser l'action. C'est ça que tu veux dire?
C'est ça. Mais moi, je pense que si ça ne se fait pas, pour revenir à ce qu'on disait, ce qu'on trouvait dommage, c'est que justement, ça prend du temps.
Oui, c'est de l'investissement.
Même l'équipe de France, c'est fin des années 80, ils en ont marre de toujours perdre et ils créent Clairefontaine qui devient le centre de formation où Thierry Henry passe, Mbappé passe, tout le monde passe, tous les meilleurs joueurs de moins de 13 ans passent là-bas. Et puis 5-6 ans plus tard, tu gagnes la Coupe du Monde, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis
mais c'est
que
l'État français qui a fait ça ou c'est des individus, c'est ça la question.
Clairefontaine, je pense que c'est la fédération.
C'est la fédération, ouais.
C'est le professionnalisme de la fédération.
Parce que les individus, en général, ils veulent un retour sur investissement plus rapide. C'est-à-dire, il va acheter un club. Bon, pour prendre l'exemple du Qatar, mais bon, c'est un exemple peut-être démesuré. Mais ils achètent Paris. Ils disent, bon, dans 3 ans, on veut gagner la Ligue des Champions.
Mais ok. Mais tu vois, c'est intéressant.
Ils vendent des maillots en Chine, devenir une marque internationale.
Mais tu sais ce qui est intéressant? Là, je fais un parallèle avec un autre sport où je connais beaucoup mieux, c'est le basket.
Ouais.
Aux États-Unis, t'as énormément de milliardaires, Mark Cuban, tout ça. Mark Cuban a fait ça. Shamat Palihapitiya, il a fait
Lego.
Ça.
Eux, c'est Lego. C'est
non, ils ont fait énormément d'argent. Shamat Palihapitiya, sa fortune, quand il est sorti de Facebook, il sort avec à peu près 25 millions. Je crois qu'il met... on le convainc de mettre 5 millions dans les Golden State Warriors en tant que minoritaire.
Ouais.
Les 5 millions, il est sorti avec plus de 100 millions, là.
C'était avant Stephen Curry ou quoi?
C'était avant. Et en fait, lui, comme il a dit, c'est vrai qu'ils sont rentrés avec une logique d'investissement. Donc lui, notamment, il est l'un de ceux qui a poussé pour que les gens travaillent, les équipes travaillent leur présence sur les réseaux. Parce qu'il était des réseaux sociaux. Le gars a créé le feed sur Facebook. Donc je ne sais plus exactement c'est quoi ces exacts retours, mais je vais regarder les chiffres. Et tu vois, par exemple, là, en Afrique, le seul exemple que j'ai, c'est le fondateur de Paystack, Chola. Qui est l'une des seules startups nigériennes qui s'est vendue. Il a vendu sa startup 200 millions à Stripe. Il a acheté le club Sporting Lagos, qui est dans la ligue nigériane de foot.
Mais moi, l'exemple le plus connu que j'ai, c'est celui dont je parlais tout à l'heure au Congo, Moïse Katumbi, qui a acheté le TP Mazembe. Et ils ont gagné la Ligue des Champions africaine régulièrement. Ils ont même été à la Coupe du Monde des clubs. Ils ont joué contre l'Inter Milan. Mais c'est vrai que quand. Après, le foot, si t'es seul dans ton environnement à...
À le faire, c'est dur.
C'est dur. Là, la NBA, c'est que tout le monde investit.
C'est tout le monde.
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs. C'est-à-dire que...
Il faut...
Et comme il dit, il y a les anciens joueurs, il y a des gens extérieurs qui viennent. Et c'est là où je comprends ce que je veux dire, c'est que Tanguy a raison. Son salon, tu vois, même ses discussions, ça donne envie d'investir.
Ouais.
C'est ça. C'est ça. Après, pour le sport, sur le volet sportif, effectivement, c'est difficile... que ça perdure parce qu'effectivement, quand tu as un club comme TP Mazembe qui est seul leader, qui règne sur tout le truc, et que tu n'as personne pour rivaliser.
Comme le PSG en France.
Comme le PSG en France, comme ici la SEC.
C'est pas gentil ce que tu viens de dire.
Après, ça déprécie un peu la chose sur le long terme. Donc, il faut qu'au-delà du club, il faut que la fédération, justement, accompagne ce développement, que sur le plan sportif, il y ait vraiment une saine émulation.
Exactement.
Et ça va permettre justement que ces investissements-là soient beaucoup plus rentables sur le long terme parce que le championnat sera beaucoup plus attractif, il sera beaucoup plus compétitif et vous allez voir que justement on pourra faire beaucoup plus d'affaires quand il y a un championnat qui est beaucoup plus dynamique. Mais quand c'est une seule équipe qui règne,
C'est vrai.
C'est compliqué.
C'est vrai que c'est un point que j'avais pas vu qu'il fallait qu'il y en ait plus d'une. C'est vrai,
C'est que souvent dans le business, t'entends des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise dire la compétition c'est bon. Et on dit, il dit ça juste comme ça. Mais en fait, là dans le sport, tu vois qu'effectivement, si t'as pas de compétition, le secteur est nul. Tu perds.
Et c'est ce que disait un peu quand on a parlé, on a fait un épisode avec Jamo qui sortira bientôt. Tu sais qu'il disait que justement, quand t'es seul dans le truc, tu dois aussi investir énormément sur tout.
Ouais.
En fait, tout l'effort de défrichage, d'investissement est sur toi. Parce qu'il n'y a personne d'autre.
Si tu as besoin de faire du lobbying auprès de l'État pour autre chose, pour quelque chose, tu vas être seul.
Seul à le faire.
Alors que souvent, même quand tu as des adversaires, vous avez intérêt à vous mettre ensemble pour aller.
Tiens, ça me rappelle que j'avais oublié, mais l'un de mes investisseurs, du coup, Joe Tsai, qui est le cofondateur d'Alibaba, il est le propriétaire des Brooklyn Nets.
Ok.
Et c'est un Chinois, mais qui a grandi aux États-Unis. Il adore le sport.
Il t'a demandé un autographe, d'ailleurs, récemment.
Exactement. Ah. Enfin, je lui ai offert un autographe de Drogba, notre champion national, dédicacé pour lui. Il adore le foot. C'est un des meilleurs cadeaux qu'il ait. Si tu veux, je mettrai la photo là. C'était un des grands moments de l'année dernière. Ah. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu décrivais, il y a eu le moment du Covid où je sais qu'en fait, les propriétaires des équipes de foot, de basket, ont créé les bulles. Parce que pendant longtemps, en fait, le business allait s'arrêter. Mmh. Et ils ont poussé l'État à les autoriser à reprendre avant beaucoup d'autres sports, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Parce qu'ils ont dit, non, nous, s'il faut...
Ils sont tous restés dans une ville.
Exactement. Ouais. Ils se sont dit, s'il faut, nous, on met tous les joueurs là. Mmh. On met des contrôles en place. Ils leur ont mis des Oura Ring, là, que j'ai là, pour contrôler leur température avec un reporting à l'État. Enfin, ils ont investi.
Ça, ils l'ont fait parce qu'ils sont plusieurs investisseurs.
Tu peux pas le faire tout seul. Tu peux pas dire seul, moi, je prends en charge tout le championnat.
Mais malgré ça, tu es optimiste.
Bah, je suis optimiste parce que
il faut.
Ouais. Moi, je nous considère comme des pionniers sur un segment qui est encore vierge en Afrique. Et donc, on a une lourde tâche, c'est de défricher, comme il dit, c'est de piocher.
Mmh. Ouais, dans la jungle, tu es avec ton couteau, tu viens de couper.
C'est la passion. Donc, c'est ça la mission des pionniers. Donc, on a pas la même mission que ceux qui vont venir après poser les bases ou récolter et tout. Donc, oui, je suis optimiste parce que si je n'étais pas optimiste, non, je n'allais pas continuer. Mais je pense que les chances sont là. Il y a tout, au fait. On ne cessera jamais de dire que l'Afrique, oui, c'est le continent où il y a tout. Autant pour les matières premières, mais autant pour le marché du foot. C'est pareil, quoi. J'estime que il y a beaucoup à faire. Il y a une grosse marge de progression. Il y a de réelles opportunités à se faire dans le foot business. Et c'est pour ça qu'on y est. Au-delà de la passion qui nous guide, il y a aussi la raison qui est là et qui nous fait comprendre que de manière objective, si on persévère, on pourra avoir gain de cause à un certain moment.
Et peut-être pour inciter aussi les gens qui se disent « oui, mais dans cette histoire, la rentabilité et tout ça », peut-être aussi expliquer, un peu comme l'entrepreneur qui finit toujours par prendre un restaurant ou un bar. Dites-vous que aussi investir dans le sport, ça te donne peut-être aussi un leverage en termes de... Finalement, tu captes l'attention, on va dire.
Autrement.
Parce qu'on dit souvent que même un gars comme Florentino Pérez, président du Real Madrid... Certains vont te dire qu'il est le gars, il est peut-être plus influent que le roi d'Espagne.
Enfin, c'est possible, ouais.
Mais mais en fait, le gars, tu vois, les gens, il possède une marque qui fait rêver, tu vois, qui fait rêver les jeunes, qui fait rêver les plus anciens. Et...
Tu sais, sans vouloir te couper la parole, tu sais que tout le monde ne rentre pas dans le foot pour le sport.
Oui.
Chacun a ses ambitions.
C'est ça.
Moi, je soupçonne, par exemple, le président Motsepe, d'avoir des ambitions présidentielles en Afrique du Sud.
Ah oui, Patrice Motsepe, c'est vrai.
Et pour moi, je pense que la CAF est un bon tremplin pour lui.
Bien sûr.
Parce que
ça touche tout.
En étant président de la CAF, il la rend de président de la République. Quand il va dans les pays, il est reçu par les chefs d'État.
Ah oui, c'est vrai.
Pareil pour le président de la FIFA.
Pareil pour le président de la FIFA. Stratégiquement, il faut comprendre un certain nombre de choses. Et donc, effectivement, on rentre dans le foot pour plusieurs raisons. Et le rayonnement qu'on a dans le foot, il est tel qu'on peut commencer dans le foot et déboucher ailleurs.
Mais pas finir comme tapis, si possible.
C'est votre mauvais exemple.
Tu vois, dans la mesure du possible.
Ah, tu as tué.
Donc, vous avez vu la série sur Netflix ou pas?
Ouais, j'ai vu.
C'est beau truc, là.
C'est pas mal.
Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Ne pensez pas que tous ceux qui sont dans le foot sont des gars qui pensent foot, matin, midi, soir, mangent foot. Oui, il y a des passionnés. Et c'est bizarre, hein, la plupart des passionnés... ils restent forcément dans leur cocon, mais c'est ceux qui prennent de la hauteur par rapport
aux business. Oui, ceux qui sont froids.
Qui rentrent dans le business, pour des retours, pour des résultats.
C'est comme ça. C'est partout comme ça.
C'est marrant, c'est exactement comme dans la mode, dans mon domaine. C'est partout pareil.
C'est vrai, t'as les passionnés.
Qui se laissent embarquer dans le truc.
Qui peuvent être aussi, à un moment donné, business, dans le business et puis en tirer profit. Mais généralement, pas toujours.
C'est marrant, ouais, c'est vraiment le même truc. J'avais jamais réalisé, mais ouais, ce qu'il vient de dire, c'est vrai.
C'est des métiers de passion.
Et mais parce que même Mark Cuban, à un moment, il avait dit qu'il a dû se mettre à plein temps pour gérer son club. Un peu, tu sais, la même truc que moi, je disais, difficile de faire des trucs grands à mi-temps. Mais t'as plein de ces gars-là qui se retrouvent à se mettre à plein temps quand ils lancent. Au début, ils prennent une équipe en mode juste pour le fun. Mais quand ils veulent que ça marche, ils se mettent à plein temps.
Bien sûr.
Tu les vois quitter des boulots pour se dire, bon, mon club là, si je veux que ça marche, c'est un vrai business. Mais tu dois, en termes de ressources humaines à gérer, en impact, c'est énorme. Les gars, les équipes de NBA, ça fait des centaines de millions de revenus. Donc, c'est comme gérer une boîte qui pourrait être cotée en bourse avec le même niveau de pression. Parce que dans ta ville, si tu foires, comme il dit, tout le monde te tombe dessus. Et tu deviens limite, comme tu dis, un officiel de la ville. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça comme ça. Maintenant qu'il dit, c'est vrai qu'effectivement, c'est un business où être froid peut être un asset limite.
Ouais. Quand tu mets trop de passion dans un truc, après, ça truc. Hein. Mais bon. Après, là, je pense que franchement, pour revenir à la CAN ici, il y a pas mal de gens qui misent dessus pour, même si c'est pas de gros business, des petits business. Ouais. Moi, j'ai vu sur Instagram maintenant, t'as plein de pubs.
Des maillots.
T'as les maillots.
Ah, les gens ont fait des trucs sexy pour les meufs qui sont coupées là.
Les gars, ils ont des trucs. Les coques pour les téléphones.
Il y a plein de choses. Mais c'est ça l'ingéniosité des Ivoiriens et de manière générale de tous ceux qui sont dans le foot. C'est une manière de profiter. Moi, le gars, tous ceux qui font ça, c'est pas forcément des gars qui sont homologués ou férus de foot. Il y a beaucoup de contrefaçons, c'est vrai. Il y a de l'embauche marketing par rapport à tout ce qui est sponsor officiel et tout. Mais ça montre quand même une seule émulation dans la population et les gens entreprennent. Donc ça aussi, c'est important. Sur des secteurs parallèles comme l'hébergement avec les Airbnb, avec
le transport. Tout le monde fait des Airbnb dans Abidjan, là. J'ai dit à l'heure, là.
La restauration, voilà.
Les soirées,
les conciergeries qui vont concocter des petits programmes spéciaux pour les after work, des choses comme ça. Voilà. Et tout ça, il faut tirer profit de ça, quoi. Voilà. Ouais, mais après un match, qu'est-ce qu'on fait? Le match, c'est 90 minutes. Quand il a trop duré, après, tu as 120 minutes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Les after, c'est ça.
C'est là où il y a
ça. C'est ça. Et moi, je vous dis, pendant la CAN, là, les gars viennent pour les after, Joe.
Non, c'est clair.
C'est vrai. Ils viennent pour ça. Moi, les gars qui m'appellent, c'est vraiment Joe. C'est comment ça se passe. C'est après. Tout ça. Ils font leur programme même. Ça dit, le match, c'est juste le petit point.
C'est là où on commence.
Tout le cercle qui est autour, là, c'est des trucs extra qui n'ont rien à voir avec le tout. Voilà.
Non, c'est vrai. Tu viens, tu découvres le pays.
Tu veux découvrir le pays. Tu veux te faire des rencontres. Tu veux rencontrer de belles nanas. Tu veux faire la fête. Tu veux réseauter. Tu vois. Et donc, ils me demandent c'est quoi les points chauds. C'est quoi les activités phares que la CAF organise. Bon, malheureusement, c'est sur invitation. Est-ce que je peux avoir une invitation? Est-ce que je peux aller? Je vais rencontrer telle personne. Il y a un after work ici. Il paraît qu'il y a tel joueur qui y sera. Comment est-ce qu'il faut faire pour le rencontrer? Il y a tel entraîneur. Il y a tel président de club, de fédération, comment est-ce que... Bon, voilà.
Mais d'ailleurs, vous avez lancé une appli, je pense.
Tu peux avoir
les bons plans.
Oui, tu as tous les bons plans. Tu as tous les... que ce soit pour l'hébergement, la restauration, les bons plans en termes d'event et tout, quoi.
Ouais, c'est top. Ouais. Et juste parce que je sais que ça va faire rire, Moulay, tu peux expliquer ce que c'est l'embauche marketing?
Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, il a dit le mot, ouais, j'ai pas relevé.
Tu vas beaucoup aimer.
Non, l'embauche marketing, si tu veux, c'est...
L'embauche marketing.
Ouais. Bah, comment on peut traduire ça en anglais, en français?
Il n'y a pas de traduction,
si tu veux. Alors, je t'explique simplement. Dans une compétition comme la CAN, tu as des sponsors officiels qui ont droit à certains privilèges. Donc, visibilité, activation de marques un peu partout. Et ce sont des droits exclusifs. Donc, des concurrents à eux n'ont aucun droit, en tout cas, de pouvoir surfer, communiquer autour de la CAN. Et tous ceux qui le font, font ce qu'on appelle de l'embauche marketing. C'est-à-dire qu'ils polluent. C'est de la contrefaçon.
Ils flirtent avec le
truc légal.
Avec le truc, par exemple. Tu vois, ils doivent pas mentionner le nom CAN ou Coupe d'Afrique des Nations ou encore moins avec le naming officiel Total Energy et tout ça. Ils doivent développer aucune offre.
Mais ils vont parler de l'offre
victoire. Ils vont te dire.
L'offre hors jeu, l'offre.
Voilà, par exemple.
L'offre fierté nationale.
Voilà.
Par exemple, tu as une bouteille d'eau. C'est ça, ça s'appelle embouche marketing.
Mais ils ne payent pas les droits.
Tu as une bouteille d'eau, une marque d'eau, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, qui te dit soif de victoire. Ils ont refait leur packaging avec soif de victoire.
Oui, j'ai vu. Mais ce n'est pas le sponsor officiel d'eau.
Ce n'est pas le sponsor officiel d'eau qui est une autre marque.
Ah, j'ai vu quand même des fromages aussi.
Il y a tout ça, tu vois.
Oui, j'ai vu. Hein,
mais d'ailleurs, je pense que le comité est très vigilant, d'ailleurs.
On essaie d'être très vigilant avec les services de la CAF.
Suivre tout ça, c'est votre taf aussi.
Oui, mais en fait, par respect par rapport à ceux qui ont payé.
On doit protéger les droits des sponsors.
C'est dur, en fait.
C'est dur de prendre tout le monde. Et il y en a qui passent entre les mailles, évidemment.
Voilà.
C'est comme tu n'as pas le droit de faire une diffusion de match et faire payer les gens.
Ouais.
Ah bon?
Genre, si t'as pas payé les droits de diffusion, tu peux pas.
Tu peux pas. Tu vois.
Ouais. Parce que tous les restos font ça.
Non, mais.
Ah oui, j'avais vu une histoire là-dessus à un moment où ils disaient ouais, on peut pas diffuser dans les restos, on peut pas.
C'était une fausse polémique. C'était une fausse polémique. On n'a jamais dit ça.
Ah, ok. Voilà,
justement, dans le prolongement de l'embauche marketing, préserver les droits des sponsors, on a dit que vous pouvez diffuser librement dans les maquis, bars, restaurants. Mais attention à ne pas faire la promotion de marques concurrentes aux sponsors officiels de la CAF. Et c'est ça qu'on a appelé sous-condition. Donc les gens ont pris le mot sous-condition.
Ah, en mode, on pas vendre la boisson qui n'est pas celle de toi. Oui, non, mais c'est pas ça que vous avez dit.
C'est pas ça.
Mais du coup, attends, parce que comment tu gères chaque polémique?
C'est un bon point.
Et c'est là aussi dans le métier.
Surtout en Côte d'Ivoire, là.
Que je fais là. Où tu vois que vraiment, c'est pas facile de communiquer avec les Ivoiriens.
Hein. Surtout sur les réseaux. Il y a qu'il faut juste laisser passer, non?
Faut laisser mais
en haut, on va t'appeler pour te dire.
Oui, parce que tu as des polémiques qui prennent une ampleur que tu es obligé de. Tu vois, il y a des buzz éphémères qui vont passer sur 2-3 jours sur des sujets. Et puis, bon, on se rend compte que par derrière, parce qu'on a quand même des moyens aussi pour pouvoir contrôler un certain nombre de choses, on se rend compte que c'est suscité. Il ne faut pas être naïf. Hein. Dans cette affaire de Cannes, il y en a en Côte d'Ivoire qui veulent que ça échoue. Malheureusement.
Ah, parce que c'est aussi politique, du coup.
C'est aussi politique.
Une fois que c'est l'État qui gère.
Moi, je me souviens, j'ai déjà entendu sur des Cannes passées, des amis dans leur pays en finale et espéraient que l'équipe perde. Parce qu'ils disent, s'ils gagnent, c'est le président là qui va donner la coupe.
Malheureusement. Et donc, on essaie de.
C'est arrivé là-bas.
On comprend ça aussi. Donc. Il y a des buzz qui ont été suscités rien que pour déstabiliser un peu l'organisation.
Il y avait eu le buzz des les places VIP. Les gens disent, mais on ne vend pas les places VIP.
Oui, mais ça, c'est le modèle. Bon, en fait, il y a une petite méconnaissance aussi de la CAF. Parce que les gens, ils sont en Côte d'Ivoire. On a l'habitude d'organiser les matchs de la FIF, les matchs locaux.
Ils pensent que c'est
pareil. Non, la CAF n'a jamais vendu de places VIP. Ce sont les cartons d'invitation qui sont réservés. Pour les chefs d'État comme notre ami, pour les présidents des fédérations.
Nous, on n'est pas arrivé là-bas. Nous-mêmes, on s'est battu pour nos billets péniblement. Péniblement. 10 000, hein.
Les invitations, les tickets VIP sont les invitations. Voilà, donc il y a un quota qui est réservé à la CAF, il y a un quota qui est réservé pour la partie ivoirienne.
D'accord. Donc,
écoute, le temps que le président de la République finisse d'inviter tous ses invités,
il y a pas grand chose qui descend en bas.
Il y a pas grand chose qui descend. Donc, faut même pas espérer. En dessous de ces invitations qui sont pour les personnalités, on a des tickets premium.
D'accord.
Donc, qu'on appelle des tickets hospitality. Donc, c'est la billetterie améliorée. Donc, tu as ton billet et tu as un service à côté. Où tu viens une heure ou deux heures avant le match, tu as un cocktail.
Ce que les sponsors ont, par exemple.
Tu as un cocktail à la mi-temps. Tu as droit à un cocktail à la fin, tu as droit à un cocktail, tu es transporté dans une navette, voilà, tu es dans un espace. Voilà. Donc ça, c'est des tickets premium.
Mais c'est là où tu amènes tes clients.
Voilà, c'est là où tu amènes tes clients pour vivre une expérience client particulière.
Mais il faut te faire inviter. Ah oui, si tu es sponsor, tu invites tes clients.
Voilà.
Mon ami.
Et puis, tu as les catégories 1, 2, 3. Bon, qui sont
nous autres là. C'est là où on se bat.
1, c'est en bas de la tribune officielle, mais tu n'es pas VIP, tu n'es pas premium, mais bon, tu as une bonne vue latérale. Côté.
Franchement, moi, j'ai été au match
catégorie
de Boaké,
c'est pas mal.
Franchement, j'ai l'impression que les stats sont faites telle sorte que tu vois bien de.
Tu vois partout,
c'est parfait.
Partout, quoi. Donc, franchement.
Il n'y a pas une grosse.
Et les tarifs sont vraiment abordables.
Moi, la place que j'aime, c'est la tribune média. Quand j'ai mon badge que je veux me poser quelque part et tout, je suis à la tribune média, tu as une vue Et tu comprends pourquoi les gars commentent avec aisance, quoi.
Ah ouais.
Parce qu'ils voient, tout, clean, quoi. Ils voient clean.
Bon, donc, ils préfèrent se battre pour être dans le VIP.
Ouais, non, mais battons-nous pour nos catégories. Déjà, un, là, c'est déjà ça, là où on est. Mais c'est intéressant, ouais. J'avoue, je j'ai jamais vu ça parce que il y avait un truc qui était un de mes rêves à un moment. Je sais pas si je pense peut-être qu'un jour je le ferai. Je voulais, moi, me rentrer sur développer les sports individuels et d'excellence. Genre en mode les boxeurs, natation et tout.
Développer, parce que, c'est-à-dire.
En fait, je trouvais que c'était dommage qu'on ait, par exemple, je trouve en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de très bons athlètes individuels, genre Marie-Josée Talou,
Cheikh Cissé
de taekwondo.
Ouais.
Mais ces gens-là sont souvent, en fait, à part que le moment où ils gagnent, il y a un peu de presse, le reste de l'année, tout le monde s'en fiche d'eux.
Ouais.
Et je trouvais que c'était terrible parce que, au final, si tu regardes un peu, moi, j'aime bien les mangas, faut le savoir. C'est en fait leur préparation.
Oui, bien sûr.
En fait, c'est
les gens s'intéressent qu'au podium.
Ouais.
Et c'est, tu vois, c'est un peu comme les levées de fonds où c'est juste là, on te calcule, mais le reste de l'année, je trouvais que ces gens-là, il y avait peut-être aussi à créer pour qu'il y en ait plus. Peut-être que les gens, il y a une culture aussi qu'ils peuvent partager. Parce que je pense que quand tu regardes le film Invictus, là, de, je ne sais pas si tu l'as vu avec Morgan Freeman.
Longtemps, ça.
Ouais. Oui, il parle de rugby. Où le président s'impliquait dans l'organisation de qui allait être le capitaine de l'équipe de rugby parce qu'il disait
c'était l'histoire de l'équipe d'Afrique du Sud
des Springboks de avec Matt Damon. Il disait qu'en fait il y a un bénéfice bien plus large comme tu dis quand l'équipe gagne que juste c'est tout le pays. Lui il a fait ça à l'époque où c'était Mandela qui faisait ça juste après l'apartheid parce qu'il savait que c'est le truc qui peut réunir les peuples. Et je trouvais que les individus, en vrai, le foot a cette force-là, mais les individus aussi auraient pu. Mais le foot, c'est dur parce qu'il y a 11 gars à gérer. En disant que tu ne gères que les athlètes, je ne te parle même pas de tout ce qui est derrière. Tu sais, tu as 11 athlètes à gérer pour qu'ils jouent ensemble. Mais le foot a cette complexité. Donc, je ne sais pas si toi, Tanguy, tu trouves que cette complexité rend, on va dire, le foot plus attractif ou plus compliqué à attirer des gens qui en voudraient s'investir. Parce que je me dis toujours, le foot, si tu n'aimes pas le sport, c'est plus compliqué que les sports individuels.
Alors, sur la question, ma position est la suivante. Les sports collectifs attirent beaucoup plus parce que dans la pratique du sport, il y a beaucoup plus d'animation.
Ah, il se passe plus de choses.
Il se passe plus de choses. Tu vois beaucoup plus de personnes.
Plus d'imprévus, plus de...
Voilà, tu vois beaucoup plus de personnes en...
Plus de protagonistes, quoi.
En action, voilà. Que le sport individuel. Les règles du sport collectif sont différentes de celles du sport individuel. Et les performances aussi sont pas les mêmes. Du coup, il faut beaucoup plus d'efforts pour l'athlète individuel pour avoir de la reconnaissance que les équipes, en fait.
Ah ouais, tu dirais à performance égale. Ouais, tu dirais que
tu vois, à performance égale. Et l'athlète qui sort du lot parmi une équipe, il bénéficie justement de l'apport de ses autres coéquipiers. Donc, sa notoriété dépend aussi, c'est vrai, de sa propre performance, mais aussi de ses coéquipiers. Et ça fait que on n'a pas la même appréciation en termes de, voilà, je dirais d'appréciation et en termes d'implication, d'investissement et tout ça. À mon sens, ce qui fait que on s'occupe moins, un peu moins, de ces athlètes-là, individuels, que de ceux qui sont dans un sport collectif. Je prends même le basket, qui, que ce soit le volleyball, le handball et tout ça. Vous allez voir que, même en termes de discipline de pratique, ce sont les disciplines qui sont toujours un peu mieux publicitées que les disciplines individuelles.
C'est vrai, elles ont plus de.
Voilà.
Plus...
Pourtant, le volleyball.
Qui regarde, mais même eux, ils ont plus que l'individu.
Ils ont plus que, tu vois.
Il y a coach aux Olympiques où parfois il y a ce truc autour des sprinteurs, notamment.
C'est clair. Voilà. Et justement, heureusement qu'il y a les Jeux Olympiques. Voilà, et à la base même.
Pour donner un peu de valorisation à tous ces sports. Et c'est pour ça qu'aux Jeux Olympiques, dans la discipline foot, on demande qu'il n'y ait pas les plus de 20, enfin les professionnels, en fait.
T'as
droit qu'à 3 joueurs de plus de 23 ans, c'est que les jeunes. Parce que sinon, ça met de l'ombre sur toute la compétition.
Bien sûr.
Parce que tout le monde regardait que le foot.
Ouais, c'est ça.
Et je me demande, si je connais pas même l'historique des Jeux Olympiques, mais je me demande, est-ce que les Jeux Olympiques n'avaient pas été même créés à la base pour les sports individuels?
Oui, oui. Pour les athlètes, pour mettre, pour récompenser. Voilà, parce que c'était l'effort. Ouais, et les premières disciplines, c'était l'athlétisme, c'était, voilà, c'était que les sports individuels. Et après,
je pense qu'à l'époque des Grecs, c'est ce qu'on valorisait, oui. C'est ça. Le surhomme.
C'est ça. Je sais plus exactement, ouais, mais il y a un athlète qui expliquait ça, le business du sport, qui disait que le sport, c'est ce qui nous reste de l'époque des gladiateurs.
Ouais.
En fait, c'est le divertissement par l'émulation sans prendre le risque. Comme à l'époque, les gens s'arrêtaient pour regarder, mais à l'époque, c'était des individus qui s'affrontaient. Et qu'à l'époque, les gens disaient que c'était sanguinaire, mais que le sport est la façon non sanguinaire de se projeter dans un ensemble avec quelqu'un où tu prends parti. Tu dis « Ah, je mise sur lui, je mise contre lui ». Et c'est vrai que j'aurais bien, c'est vrai que j'ai bien regardé à quel moment les sports collectifs ont pris une telle
ampleur,
moi, comparée aux...
J'ai l'impression dans les sports collectifs, ça réveille un esprit peut-être animal chez le supporter, dans le sens où c'est comme, tu vois, tu veux pas qu'il y ait une guerre, une vraie guerre, mais quelque part, t'es excité par cette idée de « Ok, je suis la Côte d'Ivoire, ils sont le Cameroun.
On est ensemble, on va se les faire. »
Mais tu sais que c'est un jeu. Mais quand même, tu as cet esprit de conquête.
Mais je me dis, tu aurais pu le faire avec un joueur. Moi, c'est un truc que je me demande toujours. Le foot, je comprends pourquoi. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile à saisir que les autres sports. Mais qu'est-ce qui fait que je sais pas...
Tu peux avoir l'impression d'être un membre de l'équipe. Enfin, tu vois, c'est quand en foot, on dit souvent le 12e homme.
Ouais.
Le public représente le 12e homme. Tu vois,
oui,
t'as
c'est
l'impression
vrai.
Que tu es. Tu vois, moi, quand je vois. Moi, j'aime bien le tennis comme ça, mais tu vois, tennis, dès qu'ils font du bruit, l'arbitre dit silence, s'il vous plaît.
C'est ça, exactement.
Tu vois, ça devient comme une pièce de théâtre.
c'est difficile ça. De s'impliquer émotionnellement, c'est, tu veux dire.
Mais tu vois, dans la boxe, les gens s'impliquent quand même. Je
de ouf. Regarde là, Ngannou qui va se faire Joshua là. Pardon, excusez-moi. je me suis un peu laissé, je me suis un peu emporté. Mais voilà, tu vois, moi, c'est plus facile pour moi de me projeter sur une personne. Mais je reconnais au foot ce truc de.
Ouais.
En termes de majorité, de largesse des gens, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait quand il y a plusieurs personnes sur le terrain.
Ouais.
Ouais. Mais ça m'a toujours intrigué. Je me suis dit que c'est peut-être ça qui facilite, comme tu dis, le côté... les gens s'imaginent, ils pourraient être l'un d'entre eux, quoi.
En tout cas, la compétition démarre. On a hâte. On a tellement entendu parler. J'ai l'impression que ça va passer très très vite, donc que tout le monde profite.
Ouais, ça va passer vite.
Et moi, j'ai vraiment que les gens prennent du plaisir. Moi, je sais que il y a quelques semaines, parfois, je me mettais peut-être trop la pression en mode, ouais, t'es un opérateur économique, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Moi, je pense que voilà, fais ce que tu sais faire, fais-le bien, et surtout prends du plaisir. C'est d'aller à un ou deux matchs, un ou deux afters. Que ça soit un souvenir, quoi.
Ouais, et c'est exactement ce que je voulais dire. Quand il y a ce genre d'événement, il ne faut pas se disperser.
Exactement.
Il faut avoir un planning bien clair de ce qu'on veut faire. Tu cibles tes matchs, tu cibles tes activités, tu profites au maximum. Et puis voilà, tu auras la meilleure CAN, quoi. Tu auras vécu la meilleure CAN parce que tu auras vécu chaque moment avec intensité pleinement.
T'as de faire tous les moments.
Si tu te disperses, tu vas finir dans les embouteillages. Tu peux pas.
C'est clair.
Tu peux pas. Moi, ça, quoi. Abidjan, un match phare des éléphants. Tu sors, tu prends un match phare à Yamoussoukro, un autre match phare à San Pedro. Tu essaies de faire ce que tu peux. Et puis tu reviens.
Et il n'y a personne qui va vous tomber dessus sur les embouteillages. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de trucs sur le coca, n'est pas responsable.
Faire,
Même
vous Paris, soufflez.
Paris
hein.
2024, là, les gars commencent à déserter Paris parce que les embouteillages, c'est inhérent à tous les jésis, à tous les grands événements sportifs internationaux.
Ouais.
C'est comme ça, on va pas échapper.
Les gens vont dire les travaux. Pourquoi on n'a pas fini les travaux avant? C'est intéressant parce que j'avoue, c'est pas le coca qui peut gérer ça.
Le pays attend combien de monde?
On attend
en estimation
1,5 million de personnes.
Sur le mois.
Et en plus, même les gens qui comptent aller à l'intérieur, ils vont se baser à Abidjan.
Bien sûr.
Parce que c'est intéressant, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais tu sais combien de gens la Côte d'Ivoire a accueilli toute l'année dernière? 950.
950 000. Sur une année. Donc, pendant un mois.
On va avoir autant de gens que sur toute l'année.
Ouais. C'est ça.
Si tu veux les chiffres, parce que je connais 58 000.
Et est-ce qu'on met aussi sur vous la hausse de l'électricité, la hausse du Yango là,
ça, vous êtes innocent quand même. Mec.
Innocent, tu plaides non coupable.
On n'a rien à voir. On subit ça aussi. Donc,
ouais, vous ne pouvez pas faire. Mais c'est intéressant parce que du coup, quand tu décris ça comme ça, un autre truc qui, moi, j'avais. Le truc, oui. Caï aussi, il faut qu'on dise aux gens, ceux qui vont regarder ça, nous, pendant la CAN, ce que nous, on propose en tant qu'entrepreneur Centre Africa, c'est que beaucoup de gens se posent des questions, comme dit, c'est une fenêtre. Tous ceux qui se demandent, est-ce que c'est pas... Parce que les gens vont voir la Côte d'Ivoire pendant un mois, partout, on sera là.
Je suis tellement fier de toi, le placement de produit que tu vas faire là.
C'est incroyable.
Tu vas venir.
Vas-y.
Alors, nous organisons... un événement pour Centre Africa où on va parler de...
S'installer en Côte d'Ivoire.
Wow.
Ouais.
Wow. Parce qu'en fait, on se dit... Nous, en plus, on est les deux qui sont des bons exemples de gens qui vivent en Côte d'Ivoire.
Ouais.
Lui, il y a grandi un peu, moi, pas du tout.
Ouais.
Et ce pays nous a accueillis comme nulle part ailleurs. Mmh. Et pourtant, on a voyagé.
Bien sûr.
Ce sera une demi-journée, de rencontre. On va faire... Donc, un enregistrement de podcast sur entreprendre en Côte d'Ivoire et un autre sur trouver un emploi en Côte d'Ivoire.
C'est très intéressant, ça.
Et un troisième sur comment s'adapter culturellement
en Côte d'Ivoire.
Ah ben ça, il faut le faire. Il faut le faire et puis il faut déjà communiquer dessus pour que les
gars... Ouais, il faudrait qu'on s'y mette. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est l'occasion.
C'est l'occasion. Restez connectés. Mmh. Allez sur nos réseaux sociaux parce que la date exacte sort bientôt.
Ouais.
Et surtout, je pense que nous, on a la chance... On a quand même beaucoup d'audiences des fois qui n'ont pas pu venir en Côte d'Ivoire, malheureusement.
Ouais.
Et on veut leur dire, c'est pas trop tard.
C'est jamais tard.
Mmh. On sera là encore après. Mmh. Et ces contenus qu'on va faire seront aussi en ligne. Et l'idée après pour nous, c'est de lancer évidemment derrière même une formation.
Ouais, parce qu'on nous demande tellement de fois...
Comment je m'installe? Par quoi je commence? Est-ce que je viens d'abord? Où est-ce que je fais? Comment j'obtiens un visa? Qu'est-ce que je fais pour trouver un appartement? Comment je rencontre des gens? Etc. Donc la CAN va être un peu l'occasion pour nous aussi de... partager notre expérience. Et ceux qui en veulent plus, c'est le moment. Il faut vous abonner déjà. Hein.
Donc, normalement, c'est le dimanche 4 février, mais suivez les réseaux sociaux.
Lâché la date, allez.
Enfin, la bonne date.
C'est ça.
Normalement.
Voilà.
Bon, restez connectés, quoi.
Merci, Tanguy, de nous soutenir, parce que cette affaire de Cannes, là, on ne sait pas comment on va tenir.
Tu seras le bienvenu.
Oui, avec plaisir. Avec plaisir. En plus, je veux dire à tous ceux qui nous suivent que vous voyez deux grands messieurs à côté, là, qui sont... qui sont là sont de beaux exemples de ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire. Et on le dit souvent, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité.
Oui.
C'était peut-être un slogan, mais au fur et à mesure, c'est devenu une véritable réalité.
C'est réel.
Exactement.
Et on le vit chaque jour. Et l'Ivoirien, il intègre ça dans son ADN. Et on est très accueillants, il faut venir. Et puis, comme pour toute action, toute activité, il faut se lancer, il faut oser venir.
Exactement.
Ne serait-ce que pour découvrir une semaine dans le pays, deux semaines, il faut venir. La Côte d'Ivoire, c'est pas cher, c'est pas super cher.
Exact.
Il y a tout ce qu'il faut pour toutes les bourses. Il y a des Airbnb à, je sais pas, moins de 50 euros la journée. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, moi, en tout cas, je vous encourage.
Et surtout, si vous venez entreprendre aussi, moi, je peux le dire, j'ai souvent aux gens, j'ai jamais dit je pense devant la caméra, mais il faut que les gens sachent, je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire du tout. Mon groupe, on a des filiales dans 10 pays africains, du Kenya au Bénin, en passant par le Nigeria.
Tu m'embauches quand?
Tu as beaucoup de choses à faire, tant que et la Côte d'Ivoire est le seul pays où c'est aussi simple de créer une société, de grandir sa société, d'accueillir des gens comparé à tous les pays africains.
Trouver de l'information.
Ouais. C'est-à-dire, le Ghana, tu dois avoir des Ghanéens, ça coûte hyper cher. Il y a plein de pays africains qui se positionnent sur le tourisme. Mais je pense qu'il faut que la Côte d'Ivoire, vraiment, les gens se rendent compte de la terre d'accueil dont on parle. Ce n'est pas juste Babi et Dou. C'est Babi aussi et l'endroit où tu peux faire du business.
Yes, the place to be. Mais c'est vraiment ça, ce que tu dis. Je pense que c'est vrai que mon idée vient de m'échapper, mais sur les premiers informateurs de la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. Comme on dit chez nous, on paye pas les renseignements. C'est pas, c'est gratuit. C'est informé. Tu prends un Ivoirien, tu lui poses une question dans la rue, tu lui demandes quelque chose, il va t'expliquer jusqu'à Z.
C'est ça.
A à Z, quoi. Il va tout te dire dans les moindres détails. Mmh. Et c'est comme ça que justement, on capte l'information, on s'oriente, tu vois. Et nous, en fait, c'est inné. On n'a pas l'adressage, tu vois, bien organisé. Mmh. Donc, l'Ivoirien a appris à donner l'information jusqu'au détail. Quand il t'indique un lieu, ouais, il te dit pas rue, tant, il te dit jusqu'à devant la vendeuse qui est là et tout.
Voilà.
Comment tu contournes et tout pharmacie, ça.
Tu vois, la vendeuse des galettes.
Donc, c'est une sorte, c'est une forme de générosité aussi. Mm-hmm. Et comme il a dit, je crois que c'est un pays où l'information est facile à trouver.
Ouais. Et on ne te met pas de barrières.
Voilà, justement.
Il y a très peu de barrières cachées en Côte d'Ivoire.
Ouais, ouais.
Là, beaucoup de pays africains veulent attirer les gens, mais une fois que tu arrives, en fait, pour ce papier-là, il faut que tu aies tel document, il faut que tu aies tel truc. Les choses sont claires.
Que tu sois de telle nationalité, que tu sois de la
nationalité, ou il faut que tu prennes un local. Il y a plein de petites subtilités. Mais bon. Tout ça, on en parlera dans notre...
Il y a pas mal de,
d'événements. Mais en tout cas, franchement, merci Tanguy encore d'être venu à la veille d'un événement de cette ampleur.
Toucher les gars, tous ceux qui veulent venir à la faveur de la CAN. Il y a plein. Moi, je peux vous donner des contacts. Il y en a plein. En tout cas, communiquer. En tout cas, moi, je vous ramènerai du monde dans la mesure du possible.
Super.
Pour que les gars assistent à ça, parce que c'est très intéressant, en tout cas, je trouve.
Super. Ouais. Donc, on a un partenaire, on est en partenariat avec le Coca.
Tu vas le mettre dans les problèmes. C'est ça le problème des Africains. Le gars est généreux, lui.
Je rigole.
Ouais, mais c'est cool,
moi, je vais finir aussi en faisant un big up à Sako Kamara et Randy Guinée.
Qu'ils viennent.
Les influenceurs qu'on aide dans un...
Que Totem Expérience aide,
du coup. Dans un truc assez fou. C'est-à-dire qu'ils sont partis de Paris. Donc, un influenceur ivoirien, un influenceur camerounais qui sont partis ensemble de Paris jusqu'à Abidjan en voiture. Ils sont en train d'arriver là. J'ai eu un message. Ils sont déjà en train d'arriver à Boaké. Ils ont tout fait. Ils sont passés par le Maroc, Mauritanie, Sénégal, tout. Et donc, voilà.
Bah, tu les reçois ici, non?
Ouais, il faudra qu'on fasse un truc.
Il faudrait qu'on fasse un truc.
Est-ce qu'ils sont encore là en février?
Normalement, ils doivent participer au match d'ouverture. Ils vont rester toute la compétition, je pense.
Ils ont fait le trajet qu'ils ont fait. Ils repartent pas en voiture, j'espère.
Non.
Voilà.
Deux semaines de voyage. Ce qui est censé être fait en 6 heures. Ils le font en 2 semaines. Et donc, voilà, on a hâte qu'ils nous racontent ça.
Ouais. Mazel tov. C'est une très belle expérience.
Donc, Tanguy, on a une petite tradition. Deux maintenant, en fait.
Ouais.
Bon, d'ailleurs, je pense avec lui, la question va être intéressante.
Ah oui.
On pose maintenant une question pour
le Congossa un peu.
Le Congossa business.
Ah, ok.
C'est de savoir quelle est la personne la plus connue que tu as dans ton répertoire téléphonique. Ah, lui.
Il y a du lourd. La compétition est très lourde dans son téléphone.
La personne la plus connue, faut que je dise n'importe quoi.
Tu peux avoir des contenders, on peut t'aider à choisir si tu as beaucoup de choix.
Dans mon téléphone. Il y a plein. C'est relatif. Bon, dans le milieu du foot.
Même en dehors, exemple, on prend tout.
Politique, tout.
Politique.
Prends tout. Foot, politique, musique, tu peux nous dire, nous, on est dedans.
Bon, à ça le faut.
En
termes de notoriété,
c'est vrai. À ça le fou. Le président Yacine Idriss Diallo de la FIF. Mosengo, secrétaire général de la CAF.
Qui d'autre? Direct au Caire.
Bon, voilà. C'est trois déjà.
Ah ouais, bah c'est déjà.
C'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir.
Et l'autre tradition, c'est en fait, voilà, un mot. Qui résume peut-être notre conversation et que les gens vont utiliser quand ils feront les commentaires de la vidéo.
Alors, un mot. Soyez audacieux.
Audace. Amen.
L'audace ouvre beaucoup de portes.
Ah.
Même les portes fermées. Donc, soyez audacieux. Entreprenez. Intéressez-vous au football. Regardez le football autrement.
Le ballon.
Changez de lunettes.
Voilà.
Prenez des lunettes d'homme d'affaires
et regardez
le football autrement. Quand vous regardez un footballeur jouer, checkez-le bien, regardez tout ce que vous pouvez faire dans le foot. Et je pense que
il y a de quoi faire.
C'est le nouvel Eldorado pour les entrepreneurs. En tout cas, à mon sens, c'est la nouvelle niche pour pouvoir développer l'économie. Je dirais même pas le football, l'économie africaine. Je pense que l'industrie du foot doit pouvoir prendre une part active comme l'industrie du cinéma, comme l'industrie de l'automobile, comme l'industrie du gaming, du e-sport. Il faut qu'on ait une véritable industrie du football. Et je pense que les embryons sont là. Il faut que les acteurs s'y mettent. Et que, justement, les jeunes que nous sommes, prenons une part active parce qu'on est en train d'écrire une histoire qu'on ne sait pas pour le moment. Et je pense que les premiers vont pas regretter. J'ouvre le champ. J'aurais pu rester fermé sur moi-même. Mais je pense que le gâteau est énorme. On peut pas le manger tout seul. Et chacun sur son domaine d'activité doit pouvoir trouver une part active, en tout cas un intérêt particulier dans le football. Donc, regardez le football autrement.
Super. Amen. Et je voudrais pas relancer une conversation, mais ça me fait penser qu'on parle trop rarement de l'impact que peut avoir un sport collectif et le football en particulier pour un jeune dans son développement.
C'est important.
Que ce soit à l'adolescence ou avant, c'est-à-dire dans son rapport aux autres, dans même sa forme physique, son éthique sportive, son hygiène de vie. Moi, je sais que personnellement, ça a un fort impact.
Bien sûr.
Et même en outil d'intégration, beaucoup de choses. Et je pense que le sport, il y a aussi des valeurs qui sont très fortes.
Absolument.
Donc voilà. En tout cas, merci. Et puis, on va te demander un pronostic. Fini.
Hey, tu es comme ça.
La finale, qui contre qui? Le score.
Alors, ça c'est les vrais trucs de foot.
Honnêtement, je vois une finale.
Vous aimez Palabre.
Je vois une finale Côte d'Ivoire-Sénégal.
D'accord.
C'est possible ça? Parce qu'ils ils vont pas se sortir avant?
Non, pas forcément.
Pas forcément.
Ça dépend des résultats du premier tour.
Je dis ça comme ça, sans regarder le schéma.
C'est possible qu'ils se rencontrent en demi, mais ça, on ne peut pas le savoir maintenant. Ils peuvent se rencontrer en demi.
J'avais regardé, j'avais peur qu'ils soient trop près, comme on est B et C.
Non, parce que tu peux, si tu...
Si tu perds là-bas et que tu gagnes là-bas, c'est compliqué.
S'ils sont tous les deux premiers, par exemple, leur poule, ils ne vont pas se rencontrer.
Ils ne vont pas se rencontrer, effectivement.
Et qui gagne alors?
La Côte d'Ivoire, bien sûr.
Les éléphants.
Je veux qu'on me lynche dans la rue.
Il a une responsabilité, t'es marrant, toi.
En parlant de ceux qui profitent aussi de la CAN, tous les artistes font une chanson sur la CAN.
Mais ils ont raison.
J'allume YouTube.
Il y a un nouveau son.
Alors, ils font des chansons pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire.
C'est vrai.
12e homme, on a dit.
12e homme, ça, effectivement, on en a besoin.
Aussi, ils vont avoir leur cachet dans les prestations pendant la CAN.
Qui va laisser? Mon ami, en tout cas, Tamsir, il a fait carton plein. Franchement. Et même la musique, comme tu dis, de Magic System.
Ouais, officielle.
Franchement.
C'est avec Universal.
Avec Universal, effectivement.
Yemi Alade. Et même le rappeur égyptien.
Ramadan.
Son move. Mohamed Ramadan.
Mohamed Ramadan, effectivement.
On a de la chance.
Ok. Bonne CAN à tous. Et que le meilleur gagne. Si vous voyez
ce que je veux dire. J'ai pas de maillot. Vas-y.
Même, tu sais. Ciao.
Allez, à bientôt, les gars.